Très bon réveil avec Europe 1, il est 6h57. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain dès 5h avec toute l'équipe du 5-7. Bonjour Mathieu Béliard.
Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez mardi 12 janvier 2021. On écoute le monde changer. Et un énorme changement de la politique des réseaux sociaux. Twitter qui bannit Donald Trump après les événements du Capitole. Facebook qui suspend son compte. Encore quelques jours, c'est pourtant un président en exercice encore. Est-ce qu'on ne touche pas aux limites de la lutte contre les fake news ? Alors ok, sur le papier, Donald Trump dit des choses fausses et il a même excité ses supporters les plus enflammés. Ça paraît justifié, mais écoutez bien ce que disait Bruno Le Maire hier matin.
La régulation des géants du digital ne peut pas et ne doit pas se faire par les géants du digital. Elle est nécessaire, mais elle doit se faire par le peuple souverain, par les États et par la justice.
Vraie question, est-ce à Mark Zuckerberg de nous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, de faire le tri dans les militants politiques qui s'expriment en ligne? À 7h40, entretien avec le philosophe Raphaël Antoven, très actif lui-même sur les réseaux sociaux, le tête-à-tête Europe Matin. Et dès le journal, dans 2 minutes, nous sommes aux États-Unis. Les enjeux de ces décisions, alors que Twitter vient également d'annoncer la suppression de 70 000 comptes liés à la mouvance QAnon des supporters de Trump complotistes. Et ce, alors que les démocrates tentent, eux, de destituer Trump avant la fin de son mandat. C'est à la une ce matin. La crise sanitaire, toujours, et son impact économique. Avec Nicolas Barré, dans un instant, le quoi qu'il en coûte toujours plus loin. À 8h15, le président d'ADP, le secteur aérien stoppé net, Augustin de Romanet, répond aux questions de Sonia Mabrouk. On va parler du monde du football, aussi très impacté par la crise économique. Une réunion au siège de la Ligue de football professionnel pour sauver les clubs. On pourrait demander aux joueurs de baisser leur salaire. Voilà quelques éléments du programme. 6h59 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Bonjour Laurent. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Une petite douceur nous arrive. Et c'est une petite douceur pour peu de temps, malheureusement. Alors, je vais vous donner quelques températures positives de la journée. Elles sont toutes positives, d'ailleurs. 4 à Lyon, 5 à Dijon, 6 à Nancy cet après-midi, 7 à Toulouse, 8 à Clermont, 9 à Lille, 10 à Paris, s'il vous plaît. Nous étions à 3-4. 11 degrés à Nantes et 12 degrés à Brest et Rennes. Alors, cette douceur, je disais, ne va durer que 2-3 jours. Ensuite, nous retrouvons le froid. Et le froid, il est encore présent sur une partie de la France, puisqu'il neige vers Limoges, vers Dijon, vers Vichy, etc. Ce sont vraiment des chutes de neige qui se concentrent sur les régions de l'Est. On retrouvera de la neige sur l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes du Nord, et ceci progressivement dans la journée. Sur la Lorraine, le Mâconnais, le Dijonnais, l'Allier, le Puy-de-Dôme, les Cévennes, de la neige dès ce matin, et ensuite peut-être un petit peu de pluie. Et puis la pluie, alors, elle est déjà sur la région parisienne, elle est présente sur toute la Manche, sur toutes les côtes atlantiques, sur le Poitou-Charentes, et cette pluie restera présente une bonne partie de la journée dans toutes ces contrées.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 7h.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout simplement on ne s'est pas dit que dans un premier temps, dans une première phase, on vaccinait toutes les personnes à risque.
À 36 ans, il a de graves problèmes cardiaques et n'a qu'une peur, attraper le Covid. Pourtant, le vaccin, ce n'est pas pour lui, en tout cas pas tout de suite. Les personnes vulnérables jeunes ne comprennent pas cette stratégie. Donald Trump, banni de Twitter et avec lui, 70 000 comptes de ses supporters les plus radicaux. Les réseaux sociaux ont-ils le droit de jouer les censeurs? Dossier dans ce journal sur une décision loin de faire l'unanimité. Dans ce journal également, plusieurs plaintes contre un livreur de Strasbourg pour antisémitisme. Il refusait de livrer les juifs. Les joueurs de foot accepteront-ils de baisser leur salaire pour sauver leur club? Et puis, si vous ne le connaissez pas déjà, vous découvrirez Attic, rappeur nommé pour les Victoires de la musique.
Juste après ce journal, Bercy qui doit annoncer de nouvelles aides aux entreprises en difficulté. Les aides déjà distribuées ne suffisent plus. C'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. À quoi sert le voyage des experts de l'OMS en Chine? Le regard international de Vincent Hervouet, l'édito sport Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un peu plus de 138 000 personnes ont pour l'instant été vaccinées, résidents d'EHPAD, personnel soignant, à partir de la semaine prochaine les plus de 75 ans. En revanche, les 2 millions de personnes vulnérables de moins de 50 ans vont devoir attendre la phase 3, c'est-à-dire mai ou juin prochain.
Et pourtant, ces personnes ont tout un risque de forme grave du Covid. Des malades qui ne comprennent pas, à l'image de ce trentenaire qu'a rencontré Victor Dolande.
On a l'impression finalement que ils nous ont oubliés.
Antoine a fait un infarctus du myocarde l'année dernière. Depuis, il est sous traitement et à 36 ans, il ne sort presque jamais de chez lui, angoissé par le coronavirus. Avec cette affection longue durée, il risque en effet de faire une forme grave du Covid Et pourtant, il ne sera pas vacciné avant des mois.
Enfin, la vaccination est là. Enfin, un espoir, une lumière, alors que je suis confiné depuis plusieurs mois. Et là, à ce moment-là, patatras, je me rends compte qu'en fait, je ne vais pas être concerné avant l'été. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, tout simplement, on ne s'est pas dit que dans un premier temps, dans une première phase, on vaccinait toutes les personnes à risque.
Pour Jean-Pierre Thiry, conseiller médical de France Assos Santé, il faut ajuster immédiatement la stratégie vaccinale pour inclure ces personnes vulnérables de moins de 50 ans.
Si dans 15 jours, on a l'impression que c'est une politique du chiffre qu'on a vacciné parce qu'il est plus facile de vacciner les soignants que les populations vulnérables et notamment les moins de 50 ans qui ont des comorbidités, on sera face à un problème éthique qui soulèvera plein de questions.
Mais pour le moment, ni la Haute Autorité de Santé ni le gouvernement ne semblent vouloir changer de position.
Et malgré les campagnes de vaccination, il ne faut pas compter sur une immunité collective en 2021, avertissement lancé par l'OMS qui estime que masques, distanciation sociale et lavage des mains resteront obligatoires au moins jusqu'à la fin de cette année. En France, le nombre de malades hospitalisés continue à grimper, près de 25 000. 310 personnes sont mortes ces dernières 24 heures. Notez aussi qu'à partir de ce soir 18h, deux nouveaux départements passent en couvre-feu avancé, le Var et la Drôme, ce qui fait 25 au total.
Près de 90 millions de personnes suivaient Donald Trump sur Twitter. J'ai dit suivez, c'est fini. Depuis l'invasion du Capitole à Washington, son compte est définitivement suspendu.
Oui, on parle bien de son compte personnel, hein, pas celui de la Maison Blanche. Décision historique qui pose beaucoup de questions sur le rôle des réseaux sociaux. C'est un dossier qu'on ouvre ce matin sur Europe 1. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. On apprend ce matin que Twitter a pris une décision encore plus radicale. Des dizaines de milliers de comptes supprimés, tous appartenaient à une mouvance extrémiste.
Oui, plus de 70 000 exactement des comptes qui faisaient la promotion de la mouvance QAnon, ce mouvement d'extrême droite pro-Trump qui croit en l'existence d'un réseau pédophile mondial. Pour Twitter, ces comptes étaient dangereux car ils étaient essentiellement consacrés à la propagation de ces théories du complot et l'entreprise souhaite éviter qu'ils utilisent le réseau à des fins violentes. Il faut savoir que plusieurs participants à l'insurrection contre le Capitole de la semaine dernière sont ou étaient des partisans de QAnon, comme Ashley Babbitt, la femme abattue par la police, ou Jake Angeli, l'homme coiffé de cornes de bison que l'on a vu sur les photos qui ont fait le tour du monde. En tout cas, Twitter n'avait jamais fait d'aussi grand ménage. En juillet, quelques 7000 comptes pro-QAnon avaient déjà été bloqués, mais les théories étaient ensuite réapparues. Le réseau social veut, comme les autres entreprises du secteur, prendre ses distances avec l'attaque contre le Capitole. Une façon de montrer patte blanche, car Twitter est accusé d'avoir trop longtemps laissé prospérer en ligne les mensonges de Donald Trump.
Merci Alexis Guilleux, vous êtes à Washington pour Europe 1. On va plus loin avec vous, Clément Le Saffre, bonjour aussi.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste numérique d'Europe 1. Incitation à la violence, on vient de l'entendre. C'est bien la raison pour laquelle Donald Trump a été définitivement banni de Twitter.
Ouais, c'est exactement ça, oui. C'est un point très spécifique des conditions générales d'utilisation de Twitter, sauf que cette incitation à la violence n'était pas aussi explicite dans les tweets du président que dans ceux des comptes QAnon dont on parlait à l'instant. En réalité, le compte de Donald Trump a surtout été suspendu définitivement parce qu'il a récidivé immédiatement après une première suspension.
Alors Clément, c'est quand même une décision inédite hein, qui pose la question du pouvoir des réseaux sociaux. Est-ce qu'il est sans limite ?
D'une certaine façon, oui, puisqu'il y a une vraie opacité et c'est un sujet majeur pour ces plateformes. On connaît mal, voire pas du tout, les rouages des réseaux sociaux. On ne sait pas comment ils modèrent les contenus. Facebook, par exemple, dit employer 35 000 personnes chargées de surveiller les publications de ses membres. Elles sont réparties dans des centres partout dans le monde, des centres qui n'ouvrent que très rarement leurs portes aux médias et aux politiques. Mais Facebook est un bon élève à côté de Twitter. Là, on ne sait même pas combien de personnes sont chargées de la modération. Et c'est ce fonctionnement opaque qui gêne Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, invité d'Europe 1 hier.
La question n'est pas de savoir s'ils ont trop de pouvoir, mais est-ce qu'ils sont supervisés par la puissance publique et s'ils agissent dans le cadre d'un état de droit. Ce que je dis, c'est que probablement que la suppression du compte de Donald Trump, en tout cas l'arrêt de ce qu'il faisait, était la bonne décision compte tenu des risques imminents. Le problème que cela me pose, c'est que cela se fait sans aucune supervision démocratique.
C'est unilatéral.
C'est unilatéral et qu'ils peuvent donc décider de supprimer le compte d'un tel ou d'un tel au seul regard de leurs conditions générales d'utilisation.
Alors on entend ce que dit Cédric O, la classe politique est unanime pour condamner la décision de Twitter. Est-ce que ça pourrait arriver en France, Clément ?
Alors on n'a pas encore connu des suspensions permanentes, mais des blocages temporaires de comptes d'élus, il y en a déjà eu chez nous. Un exemple, celui de la députée apparentée RN Emmanuelle Ménard. Son compte Twitter a été suspendu à plusieurs reprises l'an dernier, en juillet, quand elle avait écrit que Greta Thunberg méritait, je cite, une bonne fessée, et de nouveau en octobre, quand elle avait affirmé que l'auteur de l'attentat de la basilique de Nice était un migrant, avant même les conclusions de l'enquête.
Alors, vaste question, Clément. Est-ce qu'on peut réguler les réseaux sociaux ? Après tout, ce sont des entreprises privées.
Ben, c'est tout l'enjeu du Digital Services Act. C'est un texte européen qui doit contraindre les plateformes à assumer la responsabilité des contenus publiés sur leur plateforme et à coopérer pour leur modération avec les gouvernements. L'an dernier, le Conseil constitutionnel avait censuré en France une bonne partie de la loi Avia qui devait réguler justement les réseaux sociaux pour lutter contre la haine en ligne. Donc la France pousse fort le texte européen, sorte de deuxième chance. Mais voilà, le sujet est sensible, nous confie un ministre, et ça va prendre du temps, au moins 2 ou 3 ans.
Merci Clément Le Saffre, spécialiste de ces questions numériques à la rédaction d'Europe 1.
Et puis encore un mot des États-Unis, jusqu'à 15 000 soldats de la garde nationale seront mobilisés à Washington le 20 janvier prochain pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Il s'agit évidemment de ne pas revoir les violences comme l'assaut du Capitole.
7h08 sur Europe 1. Je ne livre pas aux Juifs. C'est un livreur de la plateforme Deliveroo qui a refusé de prendre en charge les commandes de 2 restaurateurs juifs de Strasbourg.
Oui, et tous deux ont déposé plainte, de même que le consistoire israélite du Bas-Rhin. Encore sous le choc, David, l'un des restaurateurs, a accepté de nous raconter ce qui s'était passé.
On lui tend le paquet et il nous dit juste une question. C'est quoi comme spécialité votre restaurant ? On lui dit spécialité israélienne. À ce moment-là, il dit « Ah bah alors je livre pas ». Ça veut dire quoi, tu livres pas ? Bah je livre pas pour les juifs. Et il est parti. Moi, je me dis, je vais prévenir les autres restaurants du secteur cachère. Et en appelant un des autres restaurants, le serveur me répond « Oh purée, ça fait 5 minutes qu'il est venu chez moi ». Il m'a demandé « Est-ce que c'est un restaurant cachère ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a répondu « Ah bah je livre pas alors ». On le vit très mal, surtout qu'on est en plein Covid. Déjà qu'on n'a pas les salles de restaurant ouvertes, on peut pas accueillir du public. Le seul revenu qu'on a, c'est le Deliveroo. Si maintenant on veut même pas livrer pour nous, qu'est-ce qui va nous rester, quoi?
Témoignage recueilli par Diane Berger. De son côté, Deliveroo affirme prendre cet incident très au sérieux et a lancé une enquête interne.
Est-ce que vous connaissez Attic? Attic, c'est un rappeur qui s'est fait connaître grâce à la série Validé sur Canal+, 10 millions de vues, 5 jours après sa sortie en mars dernier.
Et depuis, il y a vraiment un phénomène Attic, au point qu'il est nommé dans la catégorie Révélation masculine aux prochaines Victoires de la musique. Alors pour faire mieux connaissance, le mieux c'est d'écouter Angèle Châtelier.
Le grand public a connu Attic, un francilien de 28 ans, grâce à son personnage dans la série sur l'industrie du rap, Validé. Il est le rôle principal, Apache, un rappeur qui cherche à percer.
Apache, on croit en toi, on a décidé de te proposer un contrat.
Mais c'est dès 2018 que dans le milieu du rap, il se fait connaître, avec son projet appelé Chaise pliante, des freestyles, sorte d'improvisation inopinée. Il cumule des millions d'écoutes en quelques jours.
Tu sors des meurs dans tes clips, mais c'est des meurs.
Et être à l'honneur d'une série Canal+ sur le rap lui a donné des ailes et des abonnés sur ses réseaux sociaux, résume-t-il.
Ça a mis un coup de boost sur ma carrière musicale. C'est un peu une discussion d'épicier de parler de chiffres et tout, mais c'est la réalité. C'est quand on prend 30 000 followers par jour pendant un mois et demi et qu'on se retrouve à la fin, c'est fantastique, quoi.
Attic s'approprie aussi un grand classique, Angela de Sayen Supakru, sorti il y a 12 ans.
Angela.
Cette chanson, la série Validée et le rap devenant le genre musical le plus écouté sur les plateformes de streaming lui ont donné une grosse popularité, au point d'être sur France 2 l'été dernier dans une émission musicale aux côtés d'Alain Souchon, Philippe Catherine ou Yael Naïm.
Angela, appelle-moi ce soir.
Vous rappelez cette chanson, Hélène ?
Bah oui, bien sûr.
Ça ne sait pas quoi. Alors, en général, quand vous avez des jeunes qui reprennent ce que vous écoutiez quand vous
c'est
étiez jeune,
signe.
C'est le coup de vieux, non ?
Un petit peu.
Ça y est, ne sait pas quoi. C'est pas tout jeune.
Non, j'ai une petite histoire à vous raconter pour finir. Allez-y. Elle se passe au Québec où il y a un couvre-feu très strict depuis ce week-end. Des policiers sont tombés sur une jeune femme d'une vingtaine d'années qui se promenait sur un trottoir en tenant en laisse un ami. Elle leur a expliqué sans rire qu'elle promenait son chien. Résultat, une amende de 1000 euros.
Ah, donc c'est pas passé. Non. La promenade du chien. Moi, j'ai une petite surprise pour vous, Hélène, puisqu'on parlait
du
rappeur Attic. Nos auditeurs ne le savent peut-être pas. Hélène Zelani connaît déjà bien ce rappeur. Elle a même sa chanson préférée. On va vous faire une réputation musicale à 7h10 du matin.
C'est duo avec Amel Bent.
Et oui, moi je ne le connaissais pas. C'est vous qui nous l'avez soufflé ce matin en conférence de rédaction. On écoute.
Regarde-moi, t'es me sans bouger les lèvres. Rassure-toi, ça ira, même si j'ai cœur de pirate. Ça changera si je te dis que je t'aime.
Et c'était le journal de 7h d'Hélène Zelani. Merci beaucoup, Hélène. 7h11 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
On en parlait dans le journal. Après avoir banni Donald Trump, Twitter vient de supprimer non moins de 70 000 comptes liés à la mouvance complotiste et pro-Trump QAnon. Est-ce le rôle de ces plateformes ? Twitter, Facebook, leur réaction pose des questions juridiques, éthiques, politiques. Est-ce aux GAFA de définir ce qui est vrai, de déterminer le cadre de la liberté d'expression ? On va en parler à 7h40 avec le philosophe Raphaël Antoven, invité du tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Comment éviter une cascade de faillites de cafés, d'hôtels, de restaurants alors que les fermetures imposées par la situation sanitaire se prolongent ? Le gouvernement prépare de nouvelles mesures d'aide.
Oui, en augmentant les aides que peut apporter le Fonds de solidarité pour les entreprises, qui s'adresse aussi d'ailleurs aux indépendants et à d'autres secteurs comme le tourisme, l'événementiel ou le sport. Des milliers d'entreprises ont fait appel à ce fonds depuis le début de la crise. Et ça va continuer dans une nouvelle version du dispositif, la quatrième depuis sa création au printemps dernier. Aujourd'hui, pour faire simple, les aides sont soit forfaitaires, une aide de 10 000 euros, soit proportionnelles au chiffre d'affaires perdu, avec un plafond de 800 000 euros depuis le début de la crise.
Et aujourd'hui, ça ne suffit plus.
Bien non. Le plafond va être relevé, il pourra atteindre jusqu'à 3 millions d'euros. Le gouvernement doit le confirmer jeudi. Et ces aides ne seront plus fonction du chiffre d'affaires perdu, mais couvriront les frais fixes de l'entreprise, en l'occurrence jusqu'à 70% de ces frais. L'objectif est de sauver des entreprises qui étaient au-dessus du plafond, par exemple des groupes de plusieurs restaurants qui n'ont plus les moyens de tenir. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ce plafond de 3 millions d'euros d'aide d'État soit lui-même relevé par Bruxelles afin d'éviter une vague de défaillance. Au moment où ce fonds de solidarité a été mis en place l'an dernier, personne ne pouvait prévoir la durée de la crise, ni même s'il y aurait une deuxième ou une troisième vague. Or, nous y sommes.
Et la crise frappe toujours les mêmes secteurs.
Exactement, c'est bien le problème. Le patron d'une grande banque me confiait hier son inquiétude de voir que les effets de la crise sont toujours concentrés sur les mêmes secteurs économiques. Ils ont résisté plus ou moins aux deux vagues du virus, mais ils sont désormais exsangues, avec des patrons épuisés, des situations familiales souvent dramatiques, alors que par contraste, d'autres secteurs tiennent le coup et entrevoient même un net rebond de leur activité pour la deuxième moitié de l'année, et c'est tant mieux. Le paysage économique des prochains mois va donc être extrêmement contrasté. Les écarts vont se creuser entre les entreprises les plus solides qui sortiront encore plus fortes de la crise et puis les autres qui étaient fragiles avant et qui ne survivront pas. 2021 va être l'année du pire pour certains et du plus fort rebond pour les autres, d'où les nouvelles aides gouvernementales pour amortir le choc des prochains mois.
Merci Nicolas Barré, c'est à lire dans les Échos ce matin. Il est 7h16 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un an après avoir annoncé la mort d'un premier malade du Covid-19, la Chine accueille la mission d'enquête de l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, ils sont une dizaine de scientifiques, des pointures. Pékin les a soigneusement choisis. Ils devaient arriver mercredi dernier, mais au dernier moment, les bureaucrates leur ont fermé la porte au nez. Plusieurs étaient déjà en route, alors ils sont restés en transit. Une semaine à méditer sur la souveraineté des nations et l'indifférence des empires. Ou qu'en dira-t-on ? Finalement, ils débarqueront jeudi. Pékin les enfermera dans 10 chambres d'hôtel pendant 2 semaines. Cette quarantaine leur laissera le temps de réfléchir aux questions qu'il ne sert à rien de poser. Après ces supplices chinois, la mission aura 3 semaines pour comprendre l'origine de la pandémie. Mais attention, l'OMS a prévenu hier, pas question de chercher un coupable. On comprend que le pangolin ne sera pas innocenté, ni le labo de P4 de Wuhan mis en accusation. D'ailleurs, le protocole de recherche est encadré. Les scientifiques doivent compléter les efforts de leurs collègues chinois, pas les dupliquer. Ça veut dire aucune initiative. Bref, le groupe devra négocier serré s'il veut aller au marché de Wuhan, même pour y faire un selfie.
Mais alors à quoi ça sert ?
Ben c'est du tourisme scientifique, de la diplomatie multilatérale. Ça prouve que l'OMS se bouge, qu'elle n'est pas vendue à la Chine, comme le prétendait méchamment Donald Trump. D'ailleurs, son directeur général s'est dit très déçu la semaine dernière quand l'arrivée de la délégation a été repoussée. Bel accès d'indépendance du docteur Tedros, élu grâce aux Chinois, qui a tardé à sonner le tocsin de la pandémie mondiale, qui n'appelait pas à fermer les frontières, qui laissait dire qu'il n'y avait pas de contamination entre humains et qui applaudissait au printemps la transparence de Pékin.
Alors,
alors pourquoi la Chine se conduit-elle comme si elle avait quelque chose à cacher ?
Mais parce qu'elle a tout à cacher. Ce n'est pas un aveu de culpabilité, c'est un réflexe conditionné. Le secret d'État est partout. La lanceuse d'alerte Zhang Zhan, qui avait filmé l'Institut de virologie de Wuhan et se demandait si le virus ne venait pas de là, vient d'être condamnée à 4 ans de prison. La délégation de l'OMS devrait peut-être lui porter des oranges. Comme ça, son voyage ne sera pas tout à fait inutile.
Vincent Hervouet, le regard international. Merci Vincent. 7h18 sur Europe 1. Le Dakar se court en ce moment en Arabie Saoudite. Attention à ce que ces dictatures, ces pays autocratiques ne deviennent pas les seuls à organiser de grands événements mondiaux sportifs. L'édito sport de Virginie Fulpin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Sébastien Loeb a abandonné hier sur le Dakar. Le rallye a lieu en Arabie Saoudite pour la deuxième année de suite. Est-ce que le sport peut et doit se dérouler dans un pays aussi peu regardant sur les droits humains? C'est un euphémisme. Pour vous, le problème, c'est que ce sont ces pays riches et autocratiques qui risquent de devenir les seuls à organiser des événements sportifs.
Alors en 2020, on a vu les sportives et les sportifs se reconnecter aux questions politiques et citoyennes, aux questions des droits humains. On en a beaucoup parlé, il y a eu un vrai changement au cours des derniers mois. Et puis là, on retrouve le Rallye Dakar qui nous invite au voyage à travers des paysages de cartes postales, mais dans un pays autocratique. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. ASO, l'organisateur du Dakar, se justifie. D'abord, il y a beaucoup d'autres événements sportifs qui ont eu lieu en Arabie Saoudite. Hein. Et puis en allant dans ce pays, on participe au changement, à l'ouverture. Alors que d'autres le fassent, c'est tout sauf une justification. Oui, il y a eu de la boxe, du tennis, du foot dans ce pays, mais on n'est pas obligé de suivre à chaque fois. Ensuite, participer au changement, vraiment, pourquoi pas, hein, il fallait essayer l'an dernier, ça aurait pu marcher, on aurait pu voir des signes d'ouverture du régime saoudien. Et là, j'aurais applaudi dès demain, mais c'est faux. L'Arabie Saoudite a condamné la militante des droits humains, Loujain Al-Atloub, à plus de 5 ans de prison le 28 décembre, c'est-à-dire quelques jours avant le départ du Dakar. Donc là, j'ai du mal à voir les signes d'ouverture.
Est-ce que les organisateurs du Rallye Dakar ont vraiment le choix ?
Ben, ça, c'est tout le problème. La critique d'ASO est aisée, mais où le Dakar aurait-il pu avoir lieu ailleurs ? On est en pleine crise sanitaire et économique, et l'Arabie Saoudite est un des seuls pays à pouvoir dépenser sans compter pour s'offrir un événement sportif. L'année 2020 a été particulièrement difficile pour ASO avec beaucoup d'événements annulés et ça coûte cher. Et finalement, l'Arabie Saoudite lui offre une bouée de sauvetage financière. Et puis dans les pays démocratiques, les populations sont de plus en plus réticentes à accueillir de grandes compétitions sportives. On le voit avec les Japonais qui ne veulent plus des Jeux Olympiques. Pour ces deux raisons, ma crainte, c'est de voir le sport mondial confisqué par quelques pays autoritaires, les seuls à pouvoir s'aligner. On le voit avec l'Arabie Saoudite et avec le Qatar, bien sûr. Si on regarde ce qui se passe en ce moment en sport, on a le Dakar, le Grand Prix de judo à Doha, et avec la pandémie, les qualifications pour l'Open d'Australie de tennis ont été délocalisées au Qatar et à Dubaï. Le golfe persique est devenu l'épicentre du sport mondial. Là encore, pourquoi pas, hein, à condition que les fédérations et les sociétés privées qui organisent des événements sportifs demandent des garanties sur les droits humains. Si elles se contentent de prendre l'argent en fermant les yeux, il y a comme une dichotomie avec tous ces sportifs qui mettent le genou à terre.
Merci Virginie Fulpin. Votre édito sport, c'est tous les matins écouté par nombreux auditeurs, partagé aussi sur les réseaux sociaux. Merci Virginie. Tiens, je voulais juste te dire un mot. C'est un mot de sport, mais c'est tout autre chose. Une réunion au sommet se tient cet après-midi au siège de la Ligue de football professionnelle. Les stades sont vides, les caisses aussi, et le retrait de Mediapro n'arrange strictement rien. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 espèrent que leurs joueurs vont accepter une baisse de salaire jusqu'à 30%. Ce n'est pas gagné. Écoutez ce qu'expliquait ce matin sur Europe 1 l'économiste du sport, Pierre Rondeau.
On peut envisager ou penser effectivement que des joueurs de niveau moyen plus appartenant à des clubs de milieu de tableau, voire de haut niveau, mais en tout cas qui ne sont pas assimilés au Paris Saint-Germain ou à l'Olympique Lyonnais, ces joueurs effectivement devront réfléchir ou pourront réfléchir à une baisse, mais je le précise bien, une baisse raisonnée des salaires.
Pierre Rondeau, l'économiste du sport au micro de Sébastien Krebs ce matin. Cette question, on va en reparler dans le journal de 8h sur Europe 1. Il est 7h24. Et comme tous les jours, on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand une personne débarque chez vous à l'improviste, quand un événement arrive de façon totalement impromptue, on dit alors qu'il survient sans cri et gare. Mais alors, d'où vient cette expression ?
Oui, sans cri et gare. Est-ce que ça vient de la gare ? Enfin, dans ce cas-là, c'est une raison un peu étrange. Pourquoi quelqu'un hurlerait « gare » ?
Oui, ce serait d'autant plus étrange, Mathieu, que l'expression date du XIIe siècle et que les gares SNCF à cette époque sont encore assez rares, voire inexistantes. Inutile donc d'imaginer un chef de gare crier « gare » de la même façon qu'un marin pourrait crier « terre » en étant sur la mer. Tout ça n'a rien à voir. Plus sérieusement, « gare » s'orthographiait à l'époque G-U-A-R, gare. Cela signifiait « prends garde », mais pas au sens de faire attention. Cela signifiait « garez-vous, mais mettez-vous sur le côté, mettez-vous à l'abri ». Dès lors, celui qui surgissait sans crier « gare » le faisait sans prévenir au préalable qu'il serait bon de se protéger. Pour rajouter à la confusion, le mot « garde », toujours au XIIe siècle, se prononçait « gare
».
Au XVIe siècle, on préfère utiliser la formule « sans dire gare » plutôt que « sans crier gare ». Au XVIIe, dans l'Amphitryon de Molière, on trouve la formule « Dieu te gare ». Mais « gare », G-A-R-D, bref, les deux mots se ressemblent pour finalement fusionner. La notion de se garer est d'ailleurs toujours de mise aujourd'hui, puisqu'en Grande-Bretagne, on dit « suddenly without warning ». Car quand on se gare avec une voiture et qu'on demande aux autres de prendre garde, on fait quoi, Mathieu ? Eh bien, on met ses warnings. C'est assez logique, finalement.
Finalement, tout rentre dans l'ordre. Et à 16h, c'est historiquement vôtre, avec Mathieu Noël.
Oh, c'est pas vrai. Et non, on réunit trois personnages qui ont été victimes de folles rumeurs. Georges Pompidou et son épouse Claude, l'industriel américain Henry Ford, qu'on a prétendu se présenter à l'élection américaine, et Sheila, dont la rumeur a dit qu'elle était un homme. Ce qui est faux, hein, je le précise. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël, tout à l'heure, à 16h sur Europe 1.
À tout à l'heure, 16h.
7h26 sur Europe 1. À suivre la météo, Laurent Cabrol et un nouveau journal avec Sophie Hachène. À tout de suite. 7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Alors vous choisissez la pluie ou la neige? C'est la pluie qui domine aujourd'hui sur la France. En tout cas, c'est un temps vraiment désagréable.
Si c'est moi pour conduire, je vais vous dire la pluie. Les enfants vont dire la neige, Laurent.
C'est vrai. Mais bon, la pluie, il y en a sur toutes les côtes de la Manche, toutes les côtes atlantiques, le Poitou-Charentes, la vallée de la Loire, le Limousin, la vallée de la Garonne, le Sud-Ouest. Quand je dis il y en aura tout au long de la journée ou pratiquement. Il y a un petit répit sur Paris. Hein. Sur Paris, sur mes cartes, je vois un petit répit de une heure ou deux. Mais il a plu, il pleuvra encore. Il pleuvra et il neige même maintenant. Sur l'Alsace, sur le nord de la France, en général, la Lorraine, nous avons des chutes de neige qui sont un peu éparses, mais enfin, il y en a. Et puis, la neige sera là, surtout ce matin, dans l'Allier, le Puy-de-Dôme, les Cévennes, le Dijonais, le Mâconnais, la Lorraine, de manière épisodique, je le rappelle. Les températures maximales, ça c'est la bonne nouvelle, sont en hausse. Ah, j'ai oublié de dire, ça, sur le bassin méditerranéen, du soleil, ouh. Et puis, alors, les températures en hausse, disais-je 4 à Lyon, 5 à Dijon, 6 à Nancy, 7 à Toulouse, ça monte, 8 à Clermont, 9 à Lille, 10 à Marseille, 11 à Nice et 12 à Brest. Température largement en hausse, c'est la bonne nouvelle, mais ça ne durera pas malheureusement. Elles vont rebaisser pour samedi dimanche.
Alors profitez-en. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
C'est une honte pour notre justice. J'espère qu'à un moment donné, il y ait des sanctions. Les élus qui fautent ne sont pas sanctionnés. C'est un appel d'air pour que les mauvais comportements reviennent.
L'écœurement de l'association anticorruption partie civile dans l'affaire de la chaufferie de la Défense. Le tribunal a tout simplement annulé la procédure. L'enquête durait depuis trop longtemps, estiment les juges. Aux États-Unis, les démocrates poussent pour chasser Donald Trump de la Maison-Blanche à 8 jours de la fin de son mandat. Mais le président sortant peut encore compter, pour l'instant, sur le soutien de Mike Pence, son vice-président. L'analyse des eaux usées révèle des taux élevés de Covid dans les égouts, résultat inquiétant à Marseille et en Île-de-France notamment. Et puis en Corée du Sud, un guide de bonne conduite des femmes enceintes provoque une polémique. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes.
Twitter bannit Trump et nombre de ses soutiens. Facebook le suspend. Les réseaux sociaux sont-ils légitimes à censurer un dirigeant politique? Juste après ce journal, on en parle avec le philosophe Raphaël Antoven, invité du tête-à-tête Europe Matin. La fin du quinquennat et la question des réformes voulues par Emmanuel Macron. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou. Juste avant Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Aujourd'hui, Augustin de Romanet, le président du groupe Aéroport de Paris. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Coup de théâtre hier au tribunal correctionnel de Nanterre. Après quasiment 20 ans d'enquête, les juges ont annulé l'intégralité de la procédure dans l'affaire de la chaufferie de la Défense. Une affaire de corruption tentaculaire, Guillaume Bié.
Oui, il faut dire que c'était un dossier hors norme, hein, 40 000 pages, 18 ans de feuilleton judiciaire, le plus vieux dossier du tribunal de Nanterre. avec des prévenus très âgés. Le principal est même décédé à 94 ans, juste avant le réquisitoire en 2019. Il s'agissait de Charles Ceccaldi-Reynaud, l'ancien sénateur-maire de Puteaux. Mis en cause également le plus ancien prévenu de France, Jean Bonnefond, 98 ans, incapable de comparaître hier, ou encore Bernard Forter, 82 ans. Sur le fond, c'était une vaste affaire de corruption autour du marché du chauffage et de la climatisation du quartier de la Défense, un marché juteux estimé à plusieurs centaines de millions d'euros et dont la répression des fraudes avait décelé la curieuse attribution. Mais voilà, plus de 20 ans pour être jugé, ça n'est plus un délai raisonnable, surtout quand l'un des prévenus est quasi centenaire et bien mal en point, c'est ce qu'a estimé le tribunal, annulant toute l'affaire. Une victoire pour les avocats de la Défense et un revers pour le parquet qui s'y était fermement opposé et qui peut encore faire appel.
Et un revers également pour Anticor, l'association anticorruption partie civile dans ce dossier qui dénonce, je cite, « une honte pour notre justice ».
Twitter lance une opération grand nettoyage et supprime 70 000 comptes liés à la mouvance pro-Trump QAnon.
Une mouvance conspirationniste impliquée dans les émeutes au Capitole mercredi dernier. Twitter avait déjà bloqué le compte de Donald Trump depuis vendredi. Le président sortant, de plus en plus isolé, est accusé d'incitation à la violence par les démocrates qui ont lancé deux procédures de destitution contre lui.
Ces démocrates qui appellent même Mike Pence, le vice-président, ainsi que ses ministres, à démettre Donald Trump. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. Pour l'instant, à la Maison-Blanche, on fait front commun ?
Oui, Donald Trump et son vice-président Mike Pence se sont rencontrés hier soir dans le bureau ovale et ont affiché leur unité. Ils se sont engagés à poursuivre leur travail ensemble jusqu'à la fin de leur mandat. Trump n'a donc clairement pas l'intention de démissionner. Cela signale aussi que le vice-président ne va pas invoquer le 25e amendement qui permet de démettre le président de ses fonctions, comme l'espéraient les démocrates. Du coup, il ne reste plus qu'une voie à l'opposition pour tenter de chasser Trump, la procédure de destitution. La Chambre des représentants va examiner ce mercredi l'acte d'accusation déposé hier par les démocrates. Ils accusent le président d'incitation à l'insurrection. Soutenu par les démocrates majoritaires et possiblement par quelques républicains, il devrait être facilement adopté. Mais il y aura ensuite un long procès en destitution au Sénat qui devrait aller au-delà du 20 janvier, jour de l'investiture de Joe Biden. Des proches du président élu s'inquiètent de voir cette procédure complexe entraver l'action législative des démocrates dès le début de son mandat. Certains suggèrent même d'attendre les 100 premiers jours avant d'envoyer les articles de mise en accusation au Sénat. Biden, qui se pose en président du Rassemblement, évite de se prononcer sur la question. Il a simplement dit hier que selon lui, Donald Trump ne devrait pas exercer ses fonctions et il a annoncé le thème de sa cérémonie d'investiture, l'unité.
Sonia Dridi à Washington pour Europe 1.
L'épidémie de coronavirus en France, le gouvernement, on le sait, s'attend à une hausse des contaminations après les rassemblements du jour de l'an. Mais déjà les hospitalisations qui repartent à la hausse pour le deuxième jour consécutif.
Près de 25 000 patients hospitalisés en ce moment, cela ne présage rien de bon, d'autant que les dernières données de l'observatoire Aubépine, qui traque le virus dans les eaux usées, ne sont pas tellement rassurantes non plus, Anne Le Gall.
Voilà, quand le coronavirus circule, cela se voit tout de suite dans les égouts parce que même des personnes très peu symptomatiques rejettent du virus quand elles vont aux toilettes. Or, ce que les chercheurs constatent depuis le 4 janvier, c'est une augmentation de la quantité de génomes viraux dans les eaux usées de la région Est, PACA ou Île-de-France. Ça n'était pas arrivé depuis novembre. Le virologue qui dirige ces travaux, le professeur Vincent Maréchal, s'attend donc à voir les courbes de l'épidémie monter dans les jours qui viennent.
C'est embêtant parce que d'abord, donc, c'est peut-être le de contacts trop nombreux qui auront lieu durant les fêtes. Et puis, ça présage une circulation plus importante du virus à une période où on sait qu'il est plus difficile à maîtriser, notamment parce que les conditions météorologiques favorisent la circulation des virus respiratoires. Donc, c'est une mauvaise nouvelle au même moment.
Et les interrogations sur la présence de variants plus contagieux rajoutent à l'inquiétude, car aujourd'hui, impossible de dire, en regardant les eaux usées, si des virus mutants sont en train de gagner du terrain. Des chercheurs français, suisses et britanniques travaillent sur des techniques PCR pour les repérer dans les égouts, mais elles ne seront pas disponibles avant plusieurs mois.
Anne Le Gall en charge des questions de santé sur Europe 1. Couvre-feu dès 18h dans le Var et la Drôme à partir de ce soir, ce qui porte à 25 le nombre de départements désormais concernés par la mesure.
En Corée du Sud, à Séoul, on aurait pu croire à une blague, le gouvernement local propose des conseils aux femmes enceintes pour préparer au mieux leur accouchement.
Il ne s'agit pas là d'exercices de respiration, de méditation ou de posture, non là, Jérôme Lacroix, la mairie de Séoul a publié un guide de bonnes pratiques issu d'un autre temps.
Un authentique traité de sexisme illustré, préparez-vous à écarquiller les yeux. Pendant votre grossesse, conseille ce texte aux femmes enceintes, ne reportez pas les tâches ménagères, le nettoyage, la vaisselle. Cela vous aidera à maintenir votre poids sans faire d'exercice supplémentaire. Par ailleurs, pour le jour de l'accouchement, mesdames, évitez de causer à votre famille des désagréments, je cite, en vous assurant qu'il y a assez de papier toilette, de dentifrice, de savon à la maison avant de partir accoucher. Et bien sûr, summum du sexisme, pensez à votre époux. À l'approche de la date d'accouchement, détaille l'article, les femmes enceintes devraient préparer quelques repas à l'avance pour leur mari peu familier en cuisine et s'assurer qu'ils ont assez de sous-vêtements, de chaussettes et de chemises. Vous imaginez le tollé à Séoul, une pétition signée par plus de 20 000 personnes demande que soient punis les responsables de ce texte publié il y a un peu plus d'un an par le gouvernement local. Il a été retiré la semaine dernière. Les autorités reconnaissent un manque de vigilance et s'engagent à être plus vigilant à l'avenir. Oui, merci.
Oui, effectivement, ce sera mieux. C'est lunaire, hein, cette histoire. Merci beaucoup, Jérôme Lacroix.
Non, pas douter, si vous allez la retenir, cette histoire, oui, on va la raconter dans la journée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci, Jérôme Lacroix. Merci, Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le trafic aérien qui ne redécolle pas et le débat aussi sur le passeport sanitaire. Va-t-on réserver certains lieux, certains accès, certains déplacements ou voyages aux vaccinés? À 8h15 sur Europe 1, Augustin de Romanet, le président du groupe Aéroports de Paris, au micro de Sonia Mabrouk. Mais tout de suite, est-ce le rôle de Twitter, de Facebook, de censurer Donald Trump lorsqu'il raconte n'importe quoi? Est-ce à ces multinationales de définir ce qui peut se dire ou non, ce qui est vrai ou non? Le philosophe Raphaël Antoven s'installe avec nous, le tête-à-tête Europe Matin, dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. Il est encore président des États-Unis quelques jours, mais il n'est déjà plus membre des réseaux sociaux Twitter, Facebook. Ils ont banni ou suspendu Donald Trump après les événements du Capitole. Cette nuit, 70 000 comptes proches de la mouvance complotiste pro-Trump QAnon ont été supprimés. Est-ce aux réseaux sociaux de faire le ménage pour réfléchir l'actualité? Mon invité, c'est le philosophe Raphaël Antoven.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Raphaël Antoven.
Bonjour Mathieu Béliard.
Alors pour commencer, je vais vous poser la question telle quelle. Donald Trump banni de Twitter, suspendu de Facebook, est-ce aux réseaux sociaux de faire le ménage?
C'est aux réseaux sociaux de faire le ménage chez eux. Twitter c'est pas un droit, c'est pas un service public, c'est une entreprise privée avec des règles, avec une charte qui est parfaitement fondée à mon avis à exclure celui qui ne les respecte pas. C'est pas parce que les politiques du monde entier ont élu Twitter comme tribune que Twitter, me semble-t-il en tout cas, est tenu de se conduire en prestataire public. Twitter ne doit rien à ceux qui s'y expriment.
Vous dites que c'est une boîte privée, ils font ce qu'ils veulent.
Écoutez, en particulier quand il s'agit d'un appel à l'insurrection qui fait 5 morts et qui ébranle une démocratie. Oui, je ne vois rien de choquant dans le fait qu'un réseau social se prive de la parole d'un homme, d'un séditieux, d'un voyou, d'un type qui en plus appelle à l'insurrection, qui est un pompier pyromane, qui est un type dangereux. Je veux dire, Trump n'a jamais tweeté en qualité de président. Il a toujours tweeté en qualité de Donald Trump. C'était le site de Donald Trump qui avait 85 millions d'abonnés ou 88.
Alors, je le précise pour nos auditeurs, il y a un compte officiel POTUS, President of the United States, qu'il n'a jamais ou quasiment jamais utilisé. Et il a préféré garder son compte et ses 90 millions d'abonnés.
Ce qui est très important parce que c'est le signe du fait que Trump n'a jamais endossé la fonction de président. Il s'est toujours vécu comme un individu nanti de pouvoir nouveau par le scrutin des Américains. Mais en aucune façon, il n'a incarné cette fonction. C'est pas la même chose. C'est pas comme si on avait fermé le compte de POTUS.
Alors, il faut regarder. Oui. Alors, est-ce que vous faites une différence entre Donald Trump et la fonction de président des États-Unis?
Donald Trump lui-même fait une différence entre les deux. Si c'est aussi bête que ça.
Est-ce que c'est multinational? Parce qu'il faut appeler les choses comme elles le sont. C'est ce que dénonçait même Bruno Le Maire hier matin. C'est multinational, privé, non démocratique. Le fait qu'elle se permette ce bras de fer et qu'elle se permette de museler un homme qui est démocratiquement élu, alors qu'il l'incarne ou pas, le président des États-Unis, il a la légitimité des urnes.
Oui. Il a la légitimité des urnes, mais la légitimité des urnes ne vous ouvre pas un accès illimité à Twitter, ni le droit d'y raconter n'importe quoi. Moi, mon problème, c'est que Twitter n'est pas censuré. Le Premier ministre, je crois, indonésien, quand il appelait au meurtre de millions de Français, ou bien d'autres choses. C'est-à-dire, ou alors peut-être ça a été le cas. Mais si c'est le cas, je m'en réjouis.
Encore en l'occurrence, il y avait eu plein de tweets différents et un tweet en particulier qui avait été supprimé.
Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les opinions de Trump qu'on censure. L'enjeu n'est pas celui d'une liberté d'expression. Trump est parfaitement libre de s'exprimer où il veut. Où il veut, sauf là où la charte interdit que les appels au crime, renouvelés d'ailleurs, soient autorisés. Voilà, tout simplement. Les chevaliers de la liberté d'expression, les chevaliers de la liberté de parole, qui sont en général soit des gens qui adhèrent aux propos de Trump et qui défendent la liberté d'expression de celui qui est d'accord avec eux, soit des gens qui se donnent le beau rôle en disant « je n'aime pas Trump, mais enfin, tout le monde a le droit de s'exprimer », qui tombent en extase devant leur propre sagesse, rien de tout ça ne convient. Il n'y a pas ici Twitter n'est pas un État qu'on pourrait évaluer de cette façon-là ou juger de cette façon-là. Ceci n'est pas un exercice de censure, il faut s'entendre sur les mots. La censure, elle est verticale. Elle vient de la loi, en l'occurrence, et ici, c'est pas le cas.
70 000 comptes ont été supprimés ces derniers jours. Alors, on parle de complot, de post-vérité, et on sait que ces thématiques-là, ces problématiques-là, Raphaël Antoven, on les retrouve, c'est très marqué dans certaines familles politiques. Est-ce que c'est possible de faire le tri sur ces réseaux, sur ces plateformes, sans exclure ou rejeter une partie de l'opinion, à savoir la plus à droite ou la plus à gauche ?
Non, je ne crois pas. Le problème de Trump, ce ne sont pas les fake news, les contre-vérités, les théories du complot qu'il a diffusées abondamment pendant 4 ans. Le problème, c'est le tweet où il appelle à l'insurrection, si vous voulez. Et le tweet, d'ailleurs, où il dit qu'il ne sera pas présent à l'investiture de Biden, ce qui est un autre appel à l'insurrection. Le problème est plus concret que cela, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, que vous ayez des fake news, des exercices de mauvaise foi, c'est le quotidien, et c'est très intéressant quand on est prof et qu'on s'y trouve et qu'on essaie de démonter ça. Mais le démontage des fake news, il ne se fait pas par le fait de brandir une vérité contradictoire ou une autre vérité que la vérité alternative. Le démontage des fake news, il est méthodologique. Comment avez-vous accédé à cette information ? De quelle façon ? Donc, il faut sur Twitter faire ce travail, non pas d'apuration du lieu, mais tout simplement de pédagogie dans la mesure où les gens n'appellent pas au crime et se contentent de dire des bêtises.
Alors je voyais dans le même temps que la plateforme de vente en ligne Shopify a fermé des pages officielles vendant des articles à l'effigie de Donald Trump. Ça peut avoir l'air anecdotique. Cela dit, le service de paiement sur internet Stripe a décidé de ne plus gérer les transactions de son site de campagne. À quel moment est-ce qu'on est dans ces entreprises privées qui font ce qu'elles veulent avec leurs conditions générales d'utilisation qu'on ne lit jamais, soit dit en passant. Et à quel moment est-ce qu'on bascule dans de l'obstruction à la démocratie ?
On est dans l'obstruction à la démocratie quand on conteste une élection, quand un président élu n'est pas élu, ou quand un président qui a perdu une élection est mauvais perdant et est susceptible de déclencher une guerre civile parce qu'il n'aime pas la défaite. Là, on est dans l'obstruction à la démocratie. Qu'une entreprise se donne Donald Trump comme bouc émissaire, s'il vous plaît, bon...
Comment dire ? Elles ont un bon rôle aussi.
C'est une façon aisée de se donner le beau rôle. Est-ce que empêcher Trump d'être sur telle ou telle plateforme, ça dépend des arguments qu'on invoque, je ne sais pas. Sincèrement, je ne vois rien ici qui entama la liberté d'expression.
Voilà. Sur le cas Trump, quittons-le un instant, Raphaël Antoven. Je voudrais rappeler tout simplement à nos auditeurs qu'en France, on a une loi qui s'appelle la loi Bichet et qui garantit que dans tous les kiosques à journaux, dans tous les relais de presse, on va trouver tous les titres de presse. C'est une loi d'après-guerre qui garantit la pluralité des opinions et des expressions. Aujourd'hui, Raphaël Antoven, en oubliant Trump, ce pluralisme, il est garanti par un algorithme de GAFA ?
Ça, pour le coup, c'est dramatique. Ceci est dramatique parce qu'il faut bien comprendre que ce qui se passe sur Twitter, c'est que c'est un réseau qui, sur Twitter ou sur tout réseau social d'ailleurs, la structure même d'un réseau social flatte en chacun le sentiment d'avoir raison et d'être seul à avoir raison d'une certaine manière. C'est en cela d'ailleurs que les réseaux flattent le désir identitaire. Les réseaux flattent le sentiment d'être ce qu'on croit, attirent l'attention de celui qui s'y trouve vers des contenus clivants ou des contenus qui l'intéressent. Ce qui donne un paradoxe extraordinaire, qui est que sur Twitter, on dit toutes les opinions sont libres et le débat est ouvert, alors qu'en réalité, il n'y a jamais de débat. Le réflexe des gens qui s'y trouvent est un réflexe moutonnier, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même quand on est prévenu contre ça, on se tourne vers les gens qui pensent comme soi, de sorte qu'on n'est plus informé, on est déformé par les réseaux sociaux. Et ça, c'est un problème pour le coup de pédagogie et aussi de... Comment dire ? Ce sont des espaces d'information qui sont totalement gangrénés par la consommation. Donc ce sont des lieux qui n'informent que selon... Comment dire ? dire, qui ne vous donne comme information, qui ne vous donne à manger comme information, que celle qui vous convienne, si vous le souhaitez. Donc vous pouvez très bien vous cantonner à ce que vous croyez sur un réseau social, et en cela être déformé au lieu d'être informé. Reste que c'est le problème du citoyen aussi. C'est-à-dire qu'il appartient à chacun de nous de nous informer autrement que par un réseau qui fonctionne de cette façon-là, et avec des algorithmes.
Merci Raphaël Antoven.
Merci à vous.
Merci d'avoir éclairé nos auditeurs. On participe ainsi à la réflexion. On n'est pas obligé d'avoir un avis tranché d'ailleurs sur ces questions-là. Je rappelle
reste
au passage...
Juste un point, pardonnez-moi.
Oui, allez-y, bien sûr.
Juste un point, c'est important. Je veux dire, c'est quand même très urgent que il est absolument urgent que les réseaux sociaux se conduisent en éditeurs. Ce ne sont pas des hébergeurs. Ils sont responsables du contenu qu'ils publient. Twitter est un média, c'est-à-dire un intermédiaire. C'est un filtre. C'est pas une foire. C'est pas un lieu de transparence absolue. C'est un média qui doit donc appliquer des règles. L'enjeu ici, c'est de transformer les réseaux sociaux en médias, c'est-à-dire en filtre qui ne laisse pas tout passer.
Et vous avez ouvert le débat des prochaines années, puisqu'au début des années 2000, on les a qualifiés d'hébergeurs et non d'éditeurs. Peut-être que ça va évoluer. En tout cas, la politique actuelle des Twitter et des Facebook laisse penser qu'on va vers de l'éditorial. À suivre donc. Raphaël Antoven, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt, 7h49 sur Europe 1. L'édito politique, Nicolas Bétou et Nicolas Canteloup avant 8h. C'est sur Europe 1 dans quelques secondes.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Conseil de défense, conseil des ministres, séminaire gouvernemental. La journée de demain, mercredi, promet d'être d'une rare intensité. Avec au menu deux questions qui vont déterminer la suite du quinquennat.
Oui, et la première question, c'est évidemment celle sur le durcissement ou pas des mesures sanitaires face à la menace réactivée du Covid. Avec une alternative fondamentale, sachant qu'à ce jour, la situation de notre pays est plutôt meilleure que celle de nos voisins. Faut-il en profiter pour durcir le dispositif en espérant casser pour de bon la dynamique de l'épidémie, ou faut-il au contraire continuer à piloter au jour le jour le couvre-feu ? Ça, c'est pour le court terme.
Bon, j'en conclus que l'autre sujet au menu de toutes ces réunions relève du long terme.
Bien vu, et cette question la voilà. Faut-il reprendre les réformes, en particulier celles qui avaient été laissées en plan lors du premier confinement, les retraites et l'assurance chômage ? Ou faut-il seulement poursuivre le plan de relance et tenter de limiter les effets du Covid ? Et là, il y a un vrai clivage au sein de la majorité. Il y a ceux qui soulignent que le programme de réforme est déjà bien fourni et que le calendrier parlementaire ne laisse quasiment plus une seconde pour caser d'autres sujets, sont effectivement déjà enclenchés ou vont l'être incessamment sous peu, la loi de sécurité globale, les dispositions sur la lutte contre le communautarisme, le projet même lointain de référendum et celui sur le climat, sans oublier l'idée caressée par Emmanuel Macron de réintroduire la proportionnelle aux prochaines élections législatives. Avec au milieu de tout ça, la gestion bien sûr du plan de soutien à l'économie et au secteur sinistré, on n'est donc pas loin du trop-plein. C'est la thèse défendue par une partie de la majorité et plus spécialement par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, ou par François Bayrou, qui disent que stop, les Français ont besoin de souffler, il ne faut pas en rajouter.
Et qui y a-t-il en face d'eux ?
Alors il y a ceux qui veulent au contraire reprendre, et non pas seulement continuer, mais reprendre les réformes. C'est la position de Bruno Le Maire, qui pousse à relancer la réforme des retraites. C'est aussi, semble-t-il, la position d'Alexis Kohler, le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, et de tous ceux qui plaident pour retrouver l'esprit réformateur du début du quinquennat. Leur argument, c'est qu'une réforme comme celle des retraites s'imposera, quoi qu'il arrive, ne serait-ce qu'à cause du niveau d'endettement atteint par le pays. C'est simple, on ne va pas pouvoir longtemps, en plus de notre dette Covid, creuser tous les ans le déficit des retraites.
Et comment relancer le dossier ? Parce que c'est quand même assez risqué, socialement au moins.
C'est vrai, mais ça peut se préparer en visant l'été prochain, si l'épidémie est maîtrisée, bien sûr. Il sera alors plus que temps de préparer la suite, c'est-à-dire la présidentielle de 2022, et de reparler, oui, à la droite, à cette part de l'électorat que d'Emmanuel Macron, que ses actuels tâtonnements sur le régalien et le sécuritaire n'ont pour l'instant pas franchement convaincu.
Votre édito tous les matins dans Europe Matin juste avant 8h. Merci Nicolas Bétou, 7h54. Et comme tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Augustin de Romanet, président directeur général du groupe ADP, Aéroport de Paris. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui est venu lui dire un mot. Bonjour Monsieur Le Pen.
Oui, bonjour, monsieur Béliard. Oui, pourquoi pas moi, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Béliard.
Coaché,
bonne année à vous aussi. Et merci pour vos vœux chaleureux et spontanés, je note.
C'est vrai,
on a alors, vous savez, comme ce sont, n'est-ce pas, comme l'on dit, les meilleurs qui partent, les premiers, je suis là pour un moment. écoutez, vous parlez de Gustave Romanet, je connais bien monsieur de Romanet. J'ai cru voir un gros manet. Oui, écoutez, un peu de galéjade.
Si vous voulez.
En ces périodes sombres, on ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Cela dit, je goûte assez peu, n'est-ce pas, sa dernière déclaration.
Alors, il a déclaré « L'idée d'un vaccin obligatoire n'est pas ébouriffante. Quand on voyage en Tanzanie, on vous impose le vaccin contre le paludisme. »
Écoutez, c'est idiot, n'est-ce pas, comme Monsieur remarque. Je ne projette pas, non, de monsieur de Romanet, et d'aller en Tanzanie, pas plus à Tombouctou ou à Ouarzazate, n'est-ce pas? Et tiens, monsieur Béliard, la capitale de la Tanzanie
Dar es Salaam, j'ai peur de dire une bêtise.
Monsieur Béthou.
Oui, pareil.
Ah, vous ne brillez pas, on trigale poursuite.
Attendez, mais il y a
pas
Google quand même.
Oui, révisez vos classiques, n'est-ce pas? Bref, on s'en fout.
Dodoma.
Voilà, exactement. Et je brise un peu tard. Vous n'avez pas le haut débit. Et je ne veux pas y aller de toute façon. Par contre, ma question pour monsieur Romanet est simple. Quand le trafic aérien va-t-il reprendre à plein régime? Car j'ai l'impression qu'on a nettement ralenti les expulsions, n'est-ce pas? Voilà, en vous souhaitant la bonne journée.
À vous de même. C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de la matinale tous les jours à 7h55. On retrouve Nicolas à 9h moins le quart pour la revue de presse et Augustin de Romanet, le PDG du groupe ADP, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Très bon réveil à tous. 7h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Un temps très humide et des pluies passagères aujourd'hui sur quasiment toute la France, excepté près des Pyrénées et près de la Méditerranée. Et puis les secteurs où il neige sont essentiellement dans l'Est. Et au fil des heures, ils vont se caler, de sorte que cet après-midi, seule l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord seront sous des chutes neigeuses à partir de 300 mètres. Partout ailleurs, c'est la pluie qui l'emportera. Donc la pluie l'emporte, ça veut dire que la douceur l'emporte. Les températures sont en hausse partout, entre 5 et 11 degrés, dont 10 à Paris, 8 à Nevers et 7 à Toulouse. Profitez-en, ça ne va pas durer.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
C'est un coup de semonce, ça peut mener à des conséquences extrêmement graves pour l'économie du cognac, qui fait vivre directement ou indirectement 60 000 personnes.
Tout un secteur économique risque le décrochage. Avec une taxe américaine à 25%, le cognac, mais aussi l'ensemble des vins non pétillants. Explication sur cette punition commerciale qui cible ces boissons françaises, alors que le conflit concerne pourtant les avions européens. Comment lutter contre le séparatisme quand, déjà au sein de l'islam de France, les fédérations se regardent de travers? Les projets d'Emmanuel Macron pris entre un calendrier ultra court et des désaccords profonds parmi ses interlocuteurs, notre dossier ce matin. Et puis, arrivera-t-on à imiter l'américain SpaceX et ses fusées réutilisables? Les ingénieurs d'Ariane Group y travaillent dans des labos discrets en Normandie.
Nous allons également parler du secteur aérien sinistré. C'est un pan de l'économie quasiment à l'arrêt depuis un an et qui espère des résultats rapides après l'arrivée des vaccins. Le débat sur le passeport sanitaire aussi relancé avec la propagation du variant anglais. Augustin de Romanet, président du groupe ADP, répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est profondément injuste et même absurde en apparence. Et pourtant, la décision est bel et bien appliquée comme un mauvais cadeau de départ de Donald Trump aux vignerons français, alors qu'il s'agit au départ d'un vieux conflit sur les subventions accordées respectivement à Airbus et Boeing.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
On parle donc ce matin de cette taxe sur les vins français qui existait, mais qui est très largement étendue.
Effectivement, jusqu'ici, cette taxe à 25% touchait les vins avec un degré d'alcool inférieur à 14 degrés et conditionné dans des bouteilles de moins de 2 litres. Désormais, elle vise tous les vins non pétillants, quel que soit leur degré d'alcool et leur contenance. Le vin en vrac, par exemple, exempté jusqu'à présent, est désormais taxé. Autres produits concernés, l'armagnac et le cognac. Le cognac que l'on boit peu en France, mais qui est très prisé à l'international, surtout aux États-Unis. Il se boit beaucoup en discothèque, notamment. Selon le directeur général du bureau interprofessionnel du cognac, Raphaël Delpech, cette taxe américaine est une véritable menace pour leur part de marché.
C'est un coup de semonce. Nous nous retrouvons embarqués dans un contentieux dans lequel nous n'avons strictement rien à voir. C'est le contentieux Airbus-Boeing qui dure depuis 2004. Ça peut mener à des conséquences extrêmement graves pour l'économie du cognac et qui, ici, dans la région Nouvelle-Aquitaine, en Charente-Maritime, fait vivre directement ou indirectement 60 000 personnes. Donc vous comprenez tout l'enjeu pour nous.
Alors une réunion est prévue demain à Bercy pour étudier des mesures de soutien au secteur. Encore faut-il le feu vert de Bruxelles qui pourrait dénoncer des aides d'État.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
À propos des États-Unis, Donald Trump a revu son vice-président Mike Pence pour la première fois depuis les émeutes du Capitole de la semaine dernière. Il l'avait traité de lâche pour avoir certifié les résultats de l'élection de Joe Biden. Rencontre donc dans le bureau ovale, mais sans la moindre image.
Par ailleurs, Twitter a supprimé cette nuit 70 000 comptes qui étaient liés à QAnon, cette mouvance conspirationniste dont des membres ont participé aux émeutes à Washington. Je vous invite à réécouter le dossier du journal de 7 heures sur ce pouvoir de Twitter qui a aussi couper le sifflet à Donald Trump, et ce, sans aucun contrôle démocratique, c'est sur Europe1.fr.
En France, un quart des départements sont désormais sous couvre-feu dès 18h. Le Var et la Drôme rejoignant la liste dès ce soir. Nicolas Barré nous révélait dans son édito à 7h15 que le fonds de solidarité pour les entreprises touchées par la crise pourrait atteindre jusqu'à 3 millions d'euros désormais au lieu de 800 000 aujourd'hui. Il faut dire que selon l'Organisation mondiale de la santé, avec le rythme du déploiement du vaccin sur la planète, l'immunité collective ne sera pas atteinte cette année.
Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
2021 s'annonce donc encore très compliqué pour de nombreux secteurs et en France plus particulièrement pour le groupe Aéroports de Paris.
Oui, les mois se suivent et les aéroports sonnent toujours creux. Le groupe ADP a connu un mois de novembre catastrophique avec seulement 1 million de passagers accueillis à Orly et à Roissy, soit une baisse de 88% par rapport à novembre 2019. Les chiffres de décembre seront publiés la semaine prochaine, ils seront forcément un peu plus positifs. Il y a eu un réel effet Noël sur le trafic domestique et surtout en direction des Outre-mer. Orly a même pu rouvrir son terminal 4, mais les prévisions 2021 restent alarmistes. Même avec une vaccination généralisée, Eurocontrol estime que le trafic ne va pas dépasser les 40% dans les mois qui viennent. Pas de retour au niveau de 2019 avant au moins 2024, selon les experts du secteur. Une chute durable de la fréquentation qui a déjà des conséquences sociales chez ADP. Un accord de rupture conventionnelle collective a été signé en décembre, avec à la clé plus de 1100 départs volontaires, dont 700 ne seront pas remplacés. De nouvelles négociations vont débuter fin janvier, avec cette fois sur la table une baisse des salaires.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1, il est 8h05.
Et c'est dans 6 jours que doit commencer l'examen de la loi contre le séparatisme à l'Assemblée nationale, avec une vraie difficulté que l'on a choisi d'explorer ce matin, c'est celle de l'interlocuteur. L'État et le gouvernement devraient normalement échanger assez naturellement avec le CFCM, le Conseil français du culte musulman.
Louis Dragnel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Cette instance n'est pas vraiment représentative de la communauté musulmane et elle est minée par des divisions.
Oui, exactement, elle est minée par des divisions. Et puis Emmanuel Macron avait eu une ambition qu'il avait exprimée haut et fort au Mureaux le 2 octobre dernier. Le chef de l'État était convaincu qu'il allait réussir là où ses prédécesseurs avaient échoué, à savoir obtenir le consensus de la communauté musulmane. Très rapidement, Emmanuel Macron s'est heurté au rejet de plusieurs organisations sur des sujets périphériques au projet de loi, comme la création d'une charte des valeurs républicaines, la création d'un conseil national des imams ou encore la transformation des associations musulmanes en loi 1905 pour rendre transparent le financement des mosquées. La semaine dernière, les relations se sont encore tendues lorsque le président du CFCM a annulé deux fois sa participation à des auditions parlementaires, officiellement pour des raisons de santé, ce qui n'a pas pour autant empêché de se rendre aux vœux d'Emmanuel Macron. Ce week-end, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a essayé de recoller les morceaux en recevant trois représentants du CFCM, mais séparément pour que la parole soit libre, et ces échanges ont été jugés difficiles, place Beauvau.
Et pour ce dossier, nous sommes aussi avec Virginie Riva, la spécialiste religion d'Europe.
Bonjour Virginie.
Bonjour.
Au sein du CFCM, des tensions internes ont éclaté lorsqu'Emmanuel Macron a poussé ce projet de Conseil national des imams de France.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'au sein du CFCM, il y a trois grands courants dominés par les Marocains, les Algériens et les Turcs. Il y a 15 jours, le recteur de la mosquée de Paris, tenu par les Algériens, a quitté la table des négociations en prétextant l'islamisme de certaines des composantes du CFCM. Sur le terrain, les imams ne supportent plus toutes ces guéguerres. Écoutez Mohamed Bajrafil qui a décidé d'abandonner sa fonction d'imam de la mosquée d'Ivry où il exerçait depuis 21 ans.
Aucune religion n'est aussi mal structurée que l'islam de France. Ça, c'est pas possible en fait. Donc que l'État veuille que les choses changent, c'est tout à son honneur, c'est même son devoir. Mais la manière dont il s'y est pris, en construisant un islam de France sur des bases ethno-religieuses. Ça n'a pas de sens.
Alors, on entend ça, Louis Dragnel toujours avec nous. Est-ce que ça signifie que la loi est menacée ?
Alors, clairement, non. Sauf coup de théâtre, le texte devrait être adopté. Le vrai problème, ce sera l'adhésion à la loi des organisations représentatives de l'islam. Car si elles ne jouent pas le jeu à fond, eh bien, la lutte contre l'islamisme pourrait rester au niveau du débat intellectuel.
Virginie Riva, quelle serait les solutions, si toutefois elles existent?
Alors écoutez, beaucoup d'acteurs affirment qu'il faut repartir de la base, c'est-à-dire des départements, comme Azzedine Gassi, le recteur de la mosquée de Villeurbanne.
Chaque département aura des représentants au niveau national, des grands électeurs si vous voulez. Ensuite, ils se retrouvent au niveau national pour élire un bureau, un représentant national ou un grand imam. Ou à l'image, en quelque sorte, de ce que font nos amis catholiques avec le Conseil des évêques de France.
Voilà, sauf que ce processus prendrait trop de temps. C'est tout le problème d'Emmanuel Macron. Il veut aller vite, comme Nicolas Sarkozy quand il a créé le CFCM en 2003. Résultat, en 17 ans, personne n'a pris le temps nécessaire pour mettre sur pied une organisation légitime et solide.
Voilà, face aux dissensions du Conseil français du culte musulman et de ses différentes composantes, comment réformer l'islam de France, comment lutter contre les séparatismes, c'est le dossier d'Europe 1 ce matin. Il est déjà à retrouver sur europe1.fr. Merci Virginie Riva et merci Louis Dragnel.
8h09 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. La France est-elle capable, elle aussi, de produire des fusées low cost? Ariane Group y travaille. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Et ce coup de projecteur politique sur un projet industriel d'avenir. Emmanuel Macron se rendra cet après-midi à Vernon, dans l'Eure, sur l'un des sites d'Ariane Group.
Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Des ingénieurs y construisent en ce moment une nouvelle génération de moteurs de fusée baptisés Prometheus.
Oui, à Vernon, dans un site caché en pleine forêt, on construit les moteurs et les fusées de demain. Ce moteur nouvelle génération, baptisé Prometheus, est si complexe qu'il ne peut être fabriqué qu'avec des imprimantes 3D géantes. Et il est surtout 10 fois moins cher que les moteurs qu'on utilise aujourd'hui. Il permettra à la fusée de revenir se poser à la verticale sur le pas de tir, comme est capable de le faire aujourd'hui la société américaine SpaceX. Et le moteur, lui aussi, pourra être réutiliser, détaille Jean-Yves Le Gall, le patron du Centre National d'Études Spatiales.
J'ai fait décider ce programme début 2015 à un moment où pas grand monde en Europe croyait au réutilisable, donc par chance nous l'avons décidé et Prometheus va faire ses premiers essais au banc en 2021.
La France et l'Europe, si elles veulent être concurrentielles, n'ont pas d'autre choix que de miser sur la technologie réutilisable face à une extrême réactivité des sociétés privées dans le domaine spatial.
Laure d'Autriche, spécialiste sciences d'Europe.
Réunion au sommet cet après-midi au siège de la Ligue de football professionnel. Il faut sauver les clubs.
Et la solution trouvée, ce serait que les joueurs de foot acceptent de baisser leur salaire. Les représentants des deux parties vont négocier. Cyril de la Morinerie.
Le président de l'AC Ajaccio tire la sonnette d'alarme. Son club pensionnaire de Ligue 2 risque bientôt de ne plus pouvoir payer ses salariés. Christian Leca sera donc à Paris cet après-midi lors de cette réunion cruciale. Il fait partie de la délégation de présidents de club qui va négocier directement avec les représentants des joueurs afin d'obtenir une baisse de leur salaire.
C'est une question de survie. Parce que les actionnaires, ils vont pas remettre au pot systématiquement. À un moment donné, ils vont dire « Oh, ça suffit, les gars. Hein. » Si on n'a pas de solution d'ici allez, fin mars, on sera dans le rouge, hein, dans le rouge vif même.
Au printemps dernier, un accord avait été conclu pour reporter une partie des salaires. Mais cette fois, il s'agit d'obtenir une réelle diminution. Autrement dit, une baisse proportionnelle de leurs revenus. Plus le salaire est élevé, plus l'effort serait important. Les joueurs vont-ils accepter de se serrer la ceinture ? Oui, assure Paul Bess, défenseur de Bordeaux et membre de l'Union des footballeurs professionnels.
Je pense que tout le monde est prêt à faire des efforts financiers. La crise, on la traverse tous. Hein.
Mais attention, si un accord cadre est obtenu, il ne sera qu'incitatif. Le joueur restera libre d'accepter ou non une baisse de ses revenus.
Voilà, messieurs les footballeurs, êtes-vous prêts à gagner moins? On a très envie de savoir.
On a très envie de connaître la réponse. Attention aussi aux généralités. Hein, entre la fin de classement de Ligue 2 et les joueurs du PSG, on n'a pas tout à fait les mêmes revenus non plus. Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Face aux variants, notamment anglais, quel contrôle aux aéroports? Le passeport sanitaire va-t-il finir par s'imposer pour voyager? À quoi vont ressembler les aéroports du futur alors que les pandémies, malheureusement, peuvent devenir des menaces récurrentes? Notre invité, le PDG du groupe Aéroports de Paris, Augustin de Romanet.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Augustin de Romanet, président du groupe Aéroports de Paris.
Bienvenue et bonjour Augustin de Romanet.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Face à la menace de propagation du variant, notamment anglais, est-ce que les contrôles aux aéroports, et en particulier dans les aéroports de la capitale, sont suffisants à vos yeux ?
C'est une question qui ressort des pouvoirs publics. Puisque les pouvoirs publics sont responsables de la sécurité sanitaire du pays, ils ont aujourd'hui décidé d'un dispositif avec trois volets, les pays réputés rouges, dans lesquels vous ne pouvez pas venir en France si vous n'avez pas un test PCR avant même de rentrer dans l'avion. Les pays dits orange, qui sont des pays dans lesquels vous êtes obligé de faire un test à l'arrivée, aujourd'hui plutôt un test antigénique, et puis les pays verts, qui sont les pays de l'Union européenne, plus l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, pays, voilà. Et au fond, la question est de savoir, elle se pose aujourd'hui principalement pour les pays européens, beaucoup de passagers se plaignent et disent, mais finalement, quand on arrive à l'aéroport, on n'est pas testé.
Beaucoup de témoignages.
Voilà. Mais il faut bien se rendre compte que nous avons collectivement décidé que nous étions dans un espace européen où nous avions des protocoles sanitaires comparables. Et au fond, c'est dans l'esprit, c'est presque aussi dangereux d'aller d'Alsace en Franche-Comté ou de Franche-Comté en Normandie que d'aller de Slovénie en France. Cela dit, il faut ne laisser aucune zone d'ombre. Et il me semble que... Mais ça, c'est la responsabilité des pouvoirs publics.
Oui, très bien. Mais si l'avis du patron voilà. que vous êtes.
Alors, moi, je pense que... D'abord, j'ai décidé de maintenir les caméras thermiques, quoi qu'il arrive. J'ai beaucoup de collaborateurs qui me disent, à juste titre, que ça coûte cher. Mais même si nous ne détectons qu'une personne par semaine, ça suffit. Donc, je maintiens les caméras thermiques, y compris pour les pays verts. Ensuite, pour ne pas laisser de zone d'ombre, il faut continuer à faire ce que fait dès aujourd'hui l'ARS. L'ARS multiplie le séquençage du génome. Nos tests au départ repèrent les personnes qui sont affectées du variant et au fond, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le contrôle du variant.
Oui,
le variant
c'est pour ça.
N'est pas plus
voilà.
méchant,
oui,
il ne touche
plus
pas
contagieux.
Plus les jeunes, mais il est tellement plus contagieux qu'aujourd'hui, le défi du pays, c'est le variant. Et si j'avais une recommandation à faire, ça serait de ne pas se concentrer uniquement sur la question vaccinale. Regardez Israël. Israël a 9 millions d'habitants. Il y a déjà 1 million d'habitants qui ont été vaccinés et pourtant, la circulation du virus ne ralentit pas du tout.
D'où l'importance de la prévention des tests. Et je vous pose la question, parce que c'était ma question initiale, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui dans les aéroports ? Monsieur Augustin de Romanet, vous entendez, vous voyez ces témoignages qui se multiplient sur les réseaux sociaux, dans nos reportages, pour dénoncer un manque de contrôle total, et parfois même, dans les aéroports parisiens, une véritable passoire.
Je pense que nos concitoyens sont extrêmement paradoxaux. Encore une fois, ils ne critiquent pas le fait qu'on puisse passer de Franche-Comté en Alsace ou d'Alsace en Franche-Comté sans avoir de test. Bon, à la limite, passer d'Allemagne en France, c'est un peu pareil. Sauf que, il est exact que vous avez des personnes, par exemple, qui utilisent des aéroports de correspondance pour venir en France sans être testées. Je prends l'exemple de la personne qui vient des États-Unis. Eh bien, elle passe par Amsterdam et elle n'est pas testée. La personne qui vient de Rio de Janeiro, elle passe par Madrid et elle n'est pas testée. Ça n'est pas acceptable. J'ai déjà eu l'occasion de l'écrire à plusieurs reprises au pouvoir public. Et c'est vrai que...
Ah, vous l'avez dit au pouvoir public. Vous l'avez dit à l'exécutif.
Je l'ai écrit.
Bon,
donc
non, mais vous attendez une réponse, je suppose.
Non, mais il est exact que j'ai toujours été militant d'accroître les contrôles dans les aéroports. Les mesures que le gouvernement a prises en juillet l'ont été avec notre encouragement, pour ne pas dire plus. Et aujourd'hui, il est exact que je ne me choquerai pas si des mesures de contrôle supplémentaires étaient prises pour les personnes qui arrivent en avion, notamment pour les personnes qui arrivent en avion via des hubs de correspondance en provenance de pays rouges.
On a compris. Et le fait que les voyageurs en provenance de l'Union européenne soient exemptés de tout contrôle, ça peut paraître illogique quand même, parce que la réciprocité n'est pas vraie. Je vous donne un exemple, monsieur de Romanet. Un voyageur italien qui arrive en France passe sans problème. Un voyageur français qui arrive en Italie doit avoir le test.
Non, mais il s'agit d'une question qui ressort du ministère de la Santé et sur laquelle je crois vous avoir donné mon inclination.
Bon, qu'en est-il une question encore sur les liaisons aériennes avec l'Angleterre ? Est-ce que ce sont des vols au compte-gouttes aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de liaison avec l'Angleterre. Et donc, évidemment, le variant est tellement contagieux que ce sont des mesures que nous comprenons parfaitement.
Donc, demande de test, mais est-ce qu'il faut aussi une quarantaine pour ces voyageurs-là ?
Je pense que le variant est tellement contagieux qu'il faut 14 jours, une quatorzaine. Et à titre personnel, j'ai toujours été militant d'un État efficace. Et qui dit un État efficace dit que parfois, il faut avoir des méthodes de pays asiatiques. Et s'agissant des personnes qui sont contagieuses, je recommande... Alors je sais que ça ne va pas être populaire, un arrêté privatif de liberté qui soit contrôlé par des appels aléatoires de la part de la Caisse nationale d'assurance maladie. Parce que, objectivement, une personne qui est contaminée c'est une menace pour son environnement et ça justifie qu'on lui impose de rester chez elle.
Ce n'est pas populaire, dites-vous, mais vous le dites en responsabilité aujourd'hui. Ça doit
comme
être
déjà
fait,
dit depuis 6 ou 7, comme j'ai déjà dit depuis 6 ou 7 mois, ça ne me dérange pas de le répéter aujourd'hui. Je ne suis pas du tout hostile à des arrêtés privatifs de liberté pour les personnes qui sont contagieuses, plus particulièrement celles qui sont détectées avec le variant.
Alors restons dans ce domaine finalement de la liberté élargie avec le passeport vaccinal ou le passeport sanitaire. Si demain, monsieur Augustin de Romanet, une compagnie aérienne nous dit « il faut ce passeport pour voyager », est-ce qu'un État peut lui dire non ?
Oui, je pense qu'un État peut s'inquiéter des discriminations qui pourraient survenir entre les citoyens. Vous avez des citoyens qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons d'allergie, ou etc., etc.
Ce sont des exceptions.
Donc la question que vous posez, en réalité, elle aborde un sujet qui va être dans de multiples domaines, qui est la compétition entre les États et le secteur privé. Elle se pose pour les monnaies, avec la compétition entre le Libra et les monnaies traditionnelles. Elle se pose pour l'information, avec les grands réseaux d'information qui peuvent faire des actes de censure, comme on l'a vu avec Twitter. Et elle se pose aussi avec cette question sanitaire. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'acteurs privés qui mettent en place des certificats sanitaires. Certificats qui visent à permettre de donner une garantie, une force probatoire à la qualité du laboratoire et à la qualité du résultat du test. Par exemple, pour des pays du Maghreb, on a parfois des inquiétudes de laboratoires qui ne sont pas forcément aussi professionnels que dans d'autres régions du monde. Donc, ce mouvement, il est en route.
Il est en route. On ne pourra pas l'arrêter. C'est-à-dire, attendez, c'est-à-dire des formes de documents, n'appelons pas ça forcément un passeport sanitaire ou vaccinal, mais attestant quand même de cela, vont être exigés et on ne pourra pas lutter contre.
Des documents de ce type vont être mis en place dans le monde.
Et le sont peut-être déjà.
En Israël,
c'est le cas.
Il y a même des sociétés françaises qui le promeuvent.
Lesquelles, par exemple, monsieur Augustin de Romanet ?
Je ne veux pas citer de nom ici, c'est pas le sujet.
Pourquoi elles le promeuvent ? C'est parce qu'elles savent que c'est le salut de leur secteur ?
Non, mais elles savent que ça rend un service. Si vous venez d'Algérie, par exemple, je cite ce pays, eh bien, vous êtes beaucoup plus à l'aise si vous avez une carte qui vous dit que vous avez eu tel test dans tel laboratoire agréé, que si vous voyez des autorités du pays d'arrivée qui vous disent « mais non, en fait, je conteste votre document, il n'est pas bien écrit, etc. Bon. » Donc la question du passeport sanitaire, il me semble qu'elle a été traitée par les pouvoirs publics en France qui sont hostiles à l'idée même d'interdire de voyager aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Néanmoins, il faut prendre garde au fait que ce que nos concitoyens attendent, mais aussi dans l'ensemble des pays du monde, c'est l'efficacité.
L'efficacité, est-ce qu'elle s'oppose à la liberté ? C'est très important.
Bien sûr, bien sûr qu'il y a un rapport entre efficacité et liberté qui est... Il y a un antagonisme qui est un débat de société.
Mais qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Vous, aujourd'hui, qui êtes à la tête d'un grand groupe comme Aéroport de Paris, est-ce que vous dites que le passeport sanitaire, ça peut être le salut de ce secteur ? Et d'ailleurs, pour les voyages d'affaires également, le MEDEF demande un passeport pour le public des salons professionnels. 320 000 emplois, des milliards de chiffres d'affaires en dépendent.
Moi, je suis tout à fait favorable à des mesures qui permettent de limiter au maximum l'arrêt de l'économie pour sauver des vies, parce qu'il y a deux choses qui sont claires. Il faut sauver des vies, et ce qui nous arrive aujourd'hui est historique, puisqu'on n'a jamais arrêté l'économie pour sauver des vies comme on le fait aujourd'hui. C'est une bonne chose. Néanmoins, il faut veiller à être économe de l'arrêt de l'économie. Et si le certificat sanitaire peut permettre d'avoir moins de chômage, et plus de sécurité sanitaire, il faut bien sûr en parler. En revanche, ce qui serait orwellien, c'est de tomber dans un domaine dans lequel, au motif que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus franchir la porte de votre boulangerie.
Il ne faut pas que ce soit une confiscation de liberté, mais il faut que ce soit un accélérateur pour reprendre les secteurs les plus importants.
Il faut trouver un équilibre dans lequel, évidemment, des débats au Parlement seront nécessaires.
Mais ça veut dire, M. Augustin de Romanet, qu'il ne faut pas avoir une position, comme là l'État français, de dire non, non, pas de passeport vaccinal. Puisque vous dites que certaines entités privées sont déjà, finalement, le mettent déjà en place.
C'est un fait, c'est une réalité. Je suis sollicité tous les jours par des acteurs privés qui me disent « Monsieur de Romanet, nous voulons vous proposer ». Ils appellent même ça, eux-mêmes, passeport sanitaire. Je dis non, non, ça n'est pas un passeport. Le passeport, c'est la prérogative de la puissance publique. Que vous vouliez mettre en place un certificat, une espèce de garantie de ce que les têtes... Et même, demain matin, ce qui est en jeu, c'est... En réalité, toute votre vie sanitaire, puisque vous aurez les tests Covid, vous aurez les vaccins Covid, mais vous aurez aussi peut-être votre groupe sanguin, vos dernières analyses de laboratoire, etc.
Attendez,
etc.
Ça pose d'immenses questions médicales, éthiques pour les aéroports de demain. Je le disais tout à l'heure.
Pour la société.
Bien sûr,
les aéroports sont au cœur de la connectivité du monde, donc ils y sont sensibles. Mais c'est pour toute la société.
pour toute la société. Quand on a bien compris que ce passeport, ou en tout cas ces documents, constituent aussi des échanges et parfois une concurrence entre pays. Quand on regarde aujourd'hui les liaisons, M. Augustin de Romanet, à l'intérieur de la Chine ou de l'Inde, qu'est-ce qu'on remarque ? Tout est reparti ?
Oui, tout est reparti.
Comme avant.
En Chine, 90%. En Inde, 65%.
Incroyable. Qu'est-ce que cela dit de ces pays-là qui sont déjà repartis ?
Ça dit que, pas seulement de ces pays-là, même au sein de notre pays, la France. Regardez ce qui s'est passé à Noël entre la métropole et les dom-toms. La première destination des avions pendant la semaine de Noël, ça a été la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. Songez que pour la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le trafic cette année à Noël n'a été que 17% inférieur à celui de l'an dernier, alors que l'ensemble du trafic est inférieur de 70%.
Donc il y a quand même des choses d'abord positives, il y a cette envie de reprendre l'avion, cette fréquence, et peut-être pour vous des chiffres qui seront publiés, je crois, la semaine prochaine, plutôt positifs ?
Bon, écoutez,
moins négatif que prévu, on va dire.
Beaucoup moins négatif que prévu pour la semaine de Noël, mais en revanche, nous restons avec une perspective de trafic qui ne sera pas supérieure à la moitié de ce que nous étions en 2019.
Et une échéance, je crois, pour conclure, assez incroyable, c'est à partir de 2024 ou un peu plus, pour que le trafic redevienne normal.
Écoutez, les concours de Madame Irma sont lancés entre 2023 et 2027.
Non, mais comme vous êtes évidemment un expert de ce secteur, c'est plutôt...
Entre 24 et 25, je dirais.
Bon. Et on verra, c'est une compétition aussi géopolitique entre pays, une reprise évidemment. Merci Monsieur Augustin de Romanet, c'est intéressant de vous écouter sur ces différents sujets et sur l'avenir également qui s'esquisse dès aujourd'hui. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'info avec Hélène Zélani, notre santé, notre planète avec le docteur Jimmy Mohamed et Fanny Agostini avant de retrouver Nicolas Canteloup, bien sûr. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Twitter durcit encore le ton vis-à-vis des pro-Trump extrémistes. Alexis Guilleux, vous êtes à Washington, des dizaines de milliers de comptes viennent d'être purement et simplement supprimés.
Oui, plus de 70 000 exactement des comptes qui faisaient la promotion de la mouvance QAnon, ce mouvement d'extrême droite pro-Trump qui croit en l'existence d'un réseau pédophile mondial. Pour Twitter, ces comptes étaient dangereux car ils étaient essentiellement consacrés à la propagation de ces théories du complot et l'entreprise souhaite éviter qu'ils utilisent le réseau à des fins violentes. Il faut savoir que plusieurs participants à l'insurrection contre le Capitole de la semaine dernière sont ou étaient des partisans de QAnon, comme Ashley Babbitt, la femme abattue par la police, ou Jake Angeli, l'homme coiffé de cornes de bison que l'on a vu sur les photos qui ont fait le tour du monde. En tout cas, Twitter n'avait jamais fait d'aussi grand ménage. En juillet, quelques 7000 comptes pro-QAnon avaient déjà été bloqués, mais les théories étaient ensuite réapparues. Le réseau social veut, comme les autres entreprises du secteur, prendre ses distances avec l'attaque contre le Capitole. Une façon de montrer patte blanche, car Twitter est accusé d'avoir trop longtemps laissé prospérer en ligne les mensonges de Donald Trump.
Merci Alexis Guilleux à Washington pour Europe 1. Washington, où pour éviter les débordements, jusqu'à 15 000 soldats de la garde nationale seront mobilisés le 20 janvier pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden. En France, de nouvelles aides pour les entreprises en difficulté à cause de la crise du Covid. Selon les informations que Nicolas Barré nous dévoilait à 7h20, le plafond du fonds de solidarité va passer de 800 000 à 3 millions d'euros. Les aides ne seront plus en fonction du chiffre d'affaires perdu, mais couvriront jusqu'à 70% des frais fixes de l'entreprise. Un peu plus de 138 000 personnes déjà vaccinées en 2 semaines, chiffre dévoilé par le gouvernement. Mais sur les réseaux sociaux, comme dans la vie, les sceptiques et les opposants farouches à la vaccination sont nombreux. Certains n'hésitent pas à prendre pour cible les médecins pro-vaccins. Victor Delande.
Jérôme Marty, médecin généraliste à Fronton, en Haute-Garonne, a reçu ces dernières semaines des menaces directement sur la messagerie de son téléphone. Écoutez.
Et au fait, je voulais te dire, Marty, là, tu sais quoi ton putain de vaccin, là ? Parce que toi, je pense que tu vas gagner du pognon. Je te jure, je te verrai, je te... Parce qu'on va me dire que tu cherchais toi aussi là.
Et depuis le début de la campagne de vaccination, les menaces sont de plus en plus nombreuses.
Des menaces qui ont tendance à se durcir et avec des caps qui se franchissent. Au départ, il y a eu beaucoup d'insultes. Les insultes sont devenues presque la règle. Et donc ça a fait tomber un mur. Et derrière les insultes, immédiatement derrière, vous avez eu les menaces. Des menaces en vous disant que c'est une balle dans la tête, c'est la corde qui t'attend.
À chaque fois qu'il a reçu des courriers ou des coups de fil menaçants, Jérôme Marty a porté plainte. Mais il craint désormais que certains passent à l'acte.
Si quelqu'un prend au pied de la lettre ce que ces gens-là disent, qui parlent quand même de génocide, que les médecins se font de l'expérimentation sur les personnes âgées, etc. Les gens qui prennent ça au pied de la lettre pourraient très bien se dire « ces gens sont dangereux, il faut les châtier ». Donc c'est ça la problématique.
Pas question pour autant de se taire. Jérôme Marty l'affirme, il y a trop de désinformation autour du vaccin. Il faut lutter en permanence contre les fake news. C'est notre devoir.
Victor Dolande, et selon l'OMS, il ne faut pas compter sur une immunité collective en 2021. Plusieurs cas du variant britannique ont été détectés dans le Maine-et-Loire. Une famille habitant en Angleterre était venue passer les fêtes dans la région de Cholet. Et puis à partir de ce soir, deux nouveaux départements passent en couvre-feu à 18h. Le Var et la Drôme, soit 25 au total. Nouveau coup dur pour la filière française des vins et des spiritueux. Les taxes américaines sont encore élargies. Des droits de douane à 25% qui vont concerner tous les vins non pétillants ainsi que le cognac et l'armagnac. Emmanuel Macron dans l'heure, le chef de l'État va rencontrer des agriculteurs engagés dans la transition écologique. Il fera également un détour par le site d'Ariane Group à Vernon qui construit une nouvelle génération de moteurs de fusées.
Merci beaucoup Hélène Zélani. 8h34, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Oui, de la neige ce matin, il fait vraiment un temps d'hiver très désagréable parce que certes les températures ont remonté bien sensiblement, nous avons gagné 3-4 degrés, mais c'est l'humidité maintenant qui l'emporte, une humidité qui vient du nord de l'Europe et qui envahit par le nord de la France et qui envahit le pays. Et donc nous avons eu à la fois, même aussi de la neige, hein, Vichy, Dijon, Rodez, Aurillac, Millau, Langres, Épinal sont des régions où il y a soit du verglas, soit de la neige. Mais enfin, on peut dire que toutes les régions de l'Est sont concernées et dans l'après-midi, elles vont se caler, ces chutes de neige, sur l'Alsace, la Franche-Comté et sur les Alpes du Nord. Ce sera progressif et ce sera réel. Et puis dans les autres régions, c'est la pluie qui va s'installer. Alors des petites pluies passagères sur Paris, il y a un petit peu de répit, mais enfin ça ne va pas durer. Et puis sur toutes les villes, hein, les côtes de la Manche, les côtes atlantiques, il y aura de la pluie. Donc c'est une journée fort désagréable. Si quand même, pour avoir un peu de soleil, Méditerranée, je vois le soleil sur le bassin méditerranéen. Et puis sur, quant aux températures, 4 à Lyon, 6 à Nancy, comme à Colmar, 8 à Clermont-Ferrand, 9 à Lille, 10 à Paris. Vous voyez, 10 à Paris, il en faisait 4 ou 3 il y a 2 jours, ça remonte bien. Mais malheureusement, ce type de temps relativement doux, très humide, malheureusement, eh bien, il va se convertir en froid et ça va être encore plus difficile dans les jours qui viennent, notamment samedi, dimanche, où là, il fera vraiment froid.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre santé. Et alors que nous parlons beaucoup de vaccination contre le Covid, c'est l'occasion d'y revenir ce matin avec vous, car vous m'avez confié, Jimmy, que les patients vous posaient toujours les mêmes questions en ce moment. On va essayer d'y répondre ensemble, ça peut servir à tous ceux qui ne sont pas vos patients et qui nous écoutent. Jimmy, d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement ce que c'est qu'un vaccin à ARN ?
Oui, on va essayer d'être extrêmement simple et pédago. Alors, le coronavirus, c'est une famille de virus à ARN. C'est son mode de fonctionnement. Le coronavirus a une enveloppe et une petite protéine qu'on appelle la protéine S, la protéine Spike, qui sert à s'attacher sur la cellule pour vous rendre malade. Le but de la vaccination, c'est de pouvoir recréer simplement cette protéine S grâce à l'ARN messager qui va servir uniquement de plan pour la fabriquer. Donc, lorsqu'on va vous vacciner, vous allez recevoir une petite dose dans votre muscle de cet ARN messager. Ça va donner l'ordre à votre organisme de créer lui-même cette protéine S, la protéine Spike. Par conséquent, votre système immunitaire va croire qu'il est malade, il va rencontrer cette protéine et il va créer de façon naturelle des anticorps pour vous protéger contre le coronavirus. Vous n'aurez à aucun moment le matériel génétique du coronavirus, vous aurez juste les codes, le mode d'emploi pour pouvoir créer vous-même une immunité qui est plutôt efficace.
Alors, est-ce que ce vaccin ARN peut modifier notre code génétique ?
C'est ce qui revient souvent et c'est une crainte récurrente mais qui est infondée. On aurait fait dans ces cas-là des vaccins à ADN. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARN messager est extrêmement fragile, tellement fragile que si on vous l'injectait directement dans le muscle sans le protéger, eh bien, il serait détruit au bout de quelques secondes, quelques minutes. Et donc on a besoin de le protéger et on va l'entourer d'une petite couche de gras qu'on appelle du lipide pour qu'il puisse faire son travail. Il va ensuite disparaître à aucun moment. Il ne va rentrer en contact avec votre matériel génétique, avec l'ADN. En ce qui concerne sa composition, vous pouvez être encore une fois rassuré, pas de cellules, pas de produits sanguins et aucun adjuvant dans ce vaccin. Un recul de plus de 20 ans est possible depuis la vaccination contre le SRAS, le coronavirus en Asie, pour lequel on n'avait pas réussi à trouver de vaccin. En cancérologie, on a de nombreuses fois essayé d'utiliser l'ARN, ça n'a pas marché, mais les effets secondaires ont été quasiment nuls. Donc c'est un vaccin qui est extrêmement bien toléré.
Alors une dernière question, peut-on se faire vacciner si on a déjà eu le Covid ?
Oui, vous pourrez vous faire vacciner si vous avez eu le Covid. La seule chose, c'est que les recommandations actuelles, et peut-être que ça va évoluer, nous disent qu'il va falloir attendre 3 mois après une PCR positive. Inutile d'aller faire une sérologie, elle peut être faussement négative. Vous attendez 3 mois et lorsque sera votre tour, allez vous faire vacciner. Dernière petite chose, j'entendais des confrères se faire menacer. Sachez que lorsque je vous parle de vaccination, je n'ai aucun lien d'intérêt avec n'importe quel laboratoire, ni même avec le gouvernement. Tout ce que je vous dis, c'est pour qu'on prenne soin les uns des autres, de notre santé tout simplement.
Et vous faites bien de le rappeler, Jimmy. Merci beaucoup, on vous retrouve à 15h sans rendez-vous, l'émission Santé avec Mélanie Gomez sur Europe 1. Notre planète à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin Fanny, vous nous parlez du Groenland et vous nous faites des révélations surprenantes.
Déjà des révélations sur la couleur du Groenland. On dirait instinctivement qu'il est blanc comme neige ou plutôt comme glace. Eh bien non, pas du tout. Vu du ciel, c'est un véritable tableau de Monet. Il y a du bleu, mais aussi du vert, du violet, du brun, différentes teintes de gris. Et si on se rapproche très 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 près, c'est-à-dire si on scrute le Groenland au microscope, eh bien on y trouve des algues. Tellement d'algues que cela modifie la couleur des glaciers. Une forêt de micro-algues et de microbes extrêmement denses qui prospèrent à la surface et qui recouvre l'entièreté de l'île. Et l'info surprenante, c'est que ce sont ces mêmes algues qui accélèrent le réchauffement climatique.
Ah bon, c'est en fait le changement de couleur de la surface de la glace qui pose problème, c'est ça ?
C'est exactement ça. Pour schématiser, les micro-algues viennent décolorer la surface du Groenland et viennent amoindrir l'effet réfléchissant des rayons du soleil. Au contraire, les rayons du soleil, au lieu de rebondir sur la surface blanche de la glace, vont être absorbés par la surface de plus en plus sombre sur la partie supérieure de la calotte glaciaire. Pour vous donner une image parlante et concrète, c'est un peu la même chose lorsque vous portez un t-shirt foncé au soleil. Vous allez avoir encore plus chaud. Eh bien, avec la glace qui s'assombrit, c'est pareil. La chaleur émise par le soleil est emmagasinée et le réchauffement global de la planète s'accélère et du coup tout s'enchaîne. La glace fond donc encore plus vite, donc ce qui fait encore moins de surface blanche sur la planète capable de réfléchir les rayons du soleil, ce qui accentue encore plus le réchauffement.
Et c'est un cercle vicieux en fait.
C'est ce qu'on appelle aussi dans le jargon scientifique une rétroaction positive, un effet d'emballement du climat. Les algues seraient responsables de 13% de la fonte des glaces. Et voyez comme tout est lié, ces algues se propagent en fait à cause du changement climatique. Dernièrement, les scientifiques auraient d'ailleurs fait le même parallèle avec les particules de pollution atmosphérique qui se déposent sur la glace et commencent à l'assombrir. Or, il s'avère absolument crucial de préserver la cryosphère, c'est-à-dire tout ce qui est blanc sur Terre et qui représente en fonction de la saison 40 à 85 millions de kilomètres carrés, ce qui signifie une capacité réfléchissante du rayonnement solaire absolument colossale. La glace assure donc une fonction essentielle à la planète en garantissant son équilibre climatique. Et si tout venait à fondre, cet équilibre pourrait ne plus être assuré et à partir de là générer d'autres effets d'emballement encore moins réjouissants.
Merci beaucoup Fanny Agostini, notre planète, tous les matins sur Europe 1. 8h43, dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu.
Oui, bonjour chère Julie, bonjour, bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard, ça bouge sur la matinale. Hier, j'ai fait de la musique avec le pianiste de David Bowie. Et ce matin, j'avais oral de philo avec l'excellent philosophe Raphaël Enthoven. C'est tombé sur le sujet, c'était la démocratie et les réseaux sociaux. Et j'ai eu, il m'a mis 10 sur 20. 10 sur 20, c'est quand même le double de ma note du bac, hein, Julie.
En philo, alors, c'est une bonne note, non ?
Oui, vous l'aurez noté, j'ai fini l'interview en disant merci de nous avoir éclairé, Raphaël Enthoven. J'ai dit ça pour l'antenne, bien sûr, Julie, mais pour être honnête avec vous, parce que je dois être transparent avec les auditeurs. J'étais paumé. Lost, dans le Schwartz. Pareil d'ailleurs pour l'explication de Jimmy Mohamed sur sur le vaccin ARN. Le truc Spike, machin, l'ARN passager ou messager, j'ai rien compris.
Rien compris non plus, oh là là, mon pauvre Mathieu.
Quelqu'un peut me chercher deux Aspro 500 parce que... En fait, je me demande si je suis fait pour poser des questions parce que je comprends pas toujours les réponses. Bon, enfin, bref. Allez, assez parlé de moi. Allez, l'info du jour, c'est le couvre-feu. Et oui, le couvre-feu à 18h qui devrait être étendu à tout le pays. Nous le savons, couvre-feu à 18h, variant anglais, hyper contagieux. Nous l'avons évoqué avec Augustin Romanet. Froid polaire. L'année a démarré seulement depuis 14 jours. Donc techniquement, on le sait, c'est la loi, on peut encore rendre l'année 2021. On peut la ramener là où on nous l'a donnée. Hein, oui. Donc Monsieur Castex, Monsieur Macron, remboursez-nous de 2021, on va prendre autre chose. On va prendre l'année 2019 hein, en replay. Voilà. L'autre info, allez, l'autre info. Ah, parce qu'on passe d'une info à une autre. L'autre info. Oui, j'ai tous les octaves. C'est Christian Estrosi, le maire de Nice, s'est dit prêt à recevoir les 5000 doses de vaccin Moderna que la ville a commandé. Ça, 5000 vaccins, Julie, Laurent, Paul, pour une ville qui ressemble à un EHPAD de 350 000 personnes, il n'y a pas non plus de quoi se vanter. Comment alors choisir? Parce que c'est la vraie question qu'on se pose sur Europe 1. Comment choisir ceux qu'on vaccine? On peut, alors peut-être, voilà une proposition, on peut faire peut-être un marathon de seniors sur la promenade des Anglais pour... Non, pardon, mauvaise idée. Non, une promenade des Anglais, non, ils vont choper le virus anglais. Non, c'est pas bon. Non, alors on fait un marathon dans l'arrière-pays. Hein, et puis on vaccine les 5000 qui sont arrivés derniers du marathon, donc qui seront les plus mal en point. Voilà, bon, je propose, on est force de proposition, on propose à Christian Estrosi. Voilà,
oh, mais quelle bonne idée, c'est ça, faites-le. Allez, merci Mathieu.
Voilà, je suis.
Anne Hidalgo lance une plateforme nommée Idées en commun, un premier pas vers une candidature en 2022. Bonjour Anne Hidalgo.
Oui, bonjour à tous. Non, écoutez, rien à voir.
Vous confirmez vos ambitions là ou pas?
Pardon?
Vous confirmez vos ambitions?
Non. Ça n'a rien à voir avec 2022, Madame Julie.
Ah bon?
Non. Vous vous trompez. Idées en commun, ce site est un site, c'est un site et un numéro vert pour que les gens puissent échanger des idées en commun pour demain, pour la France, pour notre pays, et de ceci, bien sûr, sans rien penser.
Très bien, bah écoutez, aucune. Moi je propose qu'on le teste, hein. On va appeler ce numéro vert, allez. Ah, le Vivaldi,
bonjour
de rigueur.
Et bienvenue sur la plateforme Idées en commun. Si vous voulez virer cette petite crotte d'Emmanuel Macron, tapez 1. Si vous souhaitez qu'Anne Hidalgo soit présidente en 2022, tapez 2. Si vous souhaitez que Rachida Dati soit présidente, allez vous faire foutre. Si vous avez des idées brillantes, parlez après le bip sonore. Anne Hidalgo se fera un plaisir de vous les emprunter pour son programme. Merci.
Ah bah je crois que c'est clair. Hein, pour 2022, vous disiez non. Bah. Allez, autre chose, Ségolène Royal demande au président Macron de vacciner les jeunes en priorité et non les vieux. Bonjour Madame Royal.
Oui, évidemment, mais arrêtons de nous mentir. Je pose la question, ça sert à quoi un vieux? Hein, on les met dans des EHPAD pour qu'ils partent tranquillement. Hein, et là, on veut les sauver. Mais il faudrait savoir ce qu'on veut.
Oh, mais arrêtez, mais c'est horrible ce que vous racontez.
Allez. Mais non. Mais je le dis, vaccinons les jeunes. Un jeune, Mme Julie, c'est un jeune, c'est l'avenir. Hein, c'est un jeune, c'est l'avenir. Un jeune, ça travaille. Un jeune, ça doit s'éclater. Puis un jeune, ça vote.
Vous n'avez pas renoncé à 2022. Hein?
Non mais renoncer à 2022, mais qu'est-ce que c'est que cette question de naze?
Oh mais ça va, oui.
Non mais franchement, mais évidemment, vous avez vu mon âge, mais évidemment que non, j'ai pas renoncé. Écoutez, si la folle d'Hidalgo y va, pourquoi pas moi? Hein? Oui. Je suis largement aussi folle qu'elle. Hein? Et d'ailleurs, j'ai mon slogan.
Oui.
Vous le voulez mon slogan?
Allez-y.
Hein? Oui, ben oui, vous avez intérêt à dire oui parce que c'est marqué. Voilà. En 2022, mort aux vieux. Voilà mon slogan.
Ça va buzzer ça encore. Un parti politique a été lancé par les proches d'Arnaud Montebourg pour soutenir sa candidature à la présidentielle. Le parti s'appelle L'Engagement. Bonjour, monsieur Montebourg.
Ah, salut la Julie, salut le Béliard, salut le Paul Larsène, salut le Cabrol. Décidément, c'est la file d'attente pour 2022, cette émission ce matin.
Bah oui, c'est vrai.
Et oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mes potos ont décidé de m'offrir un parti politique pour Noël. Voilà mon cadeau. Moi, j'avais
j'allais dégainer mes petits pots de miel comme cadeau pour tout le monde, avec un petit ruban sur le couvercle et tout, et oh, la surprise, il m'offre un parti.
Donc, ça y est, vous sortez du bois, vous vous lancez pour 2022.
Oh, t'emballes pas, attends, tu sais, les cadeaux de Noël, t'es bien placé pour le savoir, une fois sur deux, tu les laisses moisir sur une étagère. Hein, je sais pas ce que je vais en faire, moi, de leur partie. Peut-être que je vais le revendre sur le bon coin.
Ouais, ça fait quand même un moment qu'on la sent venir, hein, votre candidature.
Attends, je suis au poste d'observation, j'observe. Y a qui à gauche? Hidalgo? Bon, tous ceux qui ont une bagnole voudront voter contre elle. Voilà. Ça fait quand même un peu de monde. Et Royal, bon, sur le truc où elle est éligible, je sais pas. Et les fans de Taubira, ouais, bon. Oui, donc oui, ça se tente.
Et ce parti sera présent dans 85 départements, hein, c'est ça?
Voilà. On aurait aimé faire tous les départements, oui, Julie, ma Julie. Je vais tout te dire à toi. On n'a pas trouvé plus de 85 personnes qui veulent me voir à l'Élysée pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent. Ouais. Cette histoire de candidature. Aujourd'hui, j'ai recompté, j'ai 85 voix potentielles.
Mmh.
Bon, c'est pas si dégueu. Hein, c'est toujours plus que Benoît Hamon. Mais ça risque d'être un peu justos.
Ça risque, effectivement. Justos. Merci, monsieur Montebourg. Allez, le ministère de la Culture. Autre chose maintenant. Le ministère de la Culture a mis en place un service original. Vous pouvez appeler un numéro et un serveur vocal vous propose d'écouter un poème. Ça s'appelle le serveur vocal poétique. On va faire un petit essai, hein. Je suis sûr qu'on va... Allez, on appelle.
Bonjour. Vous êtes bien sur le serveur vocal poétique du ministère de la Culture. Envie d'une expérience zen et apaisante? Nous vous proposons une série de poèmes.
Oula.
Pour écouter le poème de Roselyne Bachelot, votre ministre de la Culture, tapez 1. Pour le poème de la Compagnie des Féministes Littéraires, tapez 2. Pour le poème de la Compagnie...
Bon, écoutez, on va prendre celui de Roselyne Bachelot. Hein. On va taper 1, on va quand même pas louper ça. Allez, 1. Boum.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un formulaire de demande d'aide à la culture. Maître au fonctionnaire, qui ne savait pas quoi faire, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour monsieur le cultureux. On est bien désolé, mais on galère pas mal, on gère mal nos dossiers, on fait bien comme on peut. Mais je sais bien, tu n'as rien au final, tu vas couler ta boîte, tes projets, tes paris, mais au moins on te le dit en faisant de la poésie.
Ce sont des alexandrins, tout ça n'empêche, hein. Bravo.
Vous êtes là, Mme Julie?
Oui.
Oui, c'est sympa, non? Voyez,
très sympa.
On s'adapte au langage artistique. Avouez que c'est plus agréable qu'un fonctionnaire qui vous dit qu'il ne trouve pas votre dossier. Nous, on assume. Oui.
Madame Bachelot, il faudrait peut-être accélérer un petit peu le mouvement. Il y a tellement de professions artistiques qui attendent les aides promises, hein, et elles n'arrivent pas à ces aides. Pourquoi elles n'arrivent pas?
Écoutez, je vais vous l'avouer à vous, parce que je vous aime bien. C'est pour faire un peu le ménage. Si ça permet de mettre hors circuit toutes les pièces de théâtre pénibles où on met des masques de sangliers pour réciter des poèmes turkmènes dans une lumière bleue, hein,
oh là
ou
là.
Toutes les comédies de boulevard à base d'engueulades, de coupes fringuées, couple fringué comme Laurent Cabrol quand il présentait La Famille en Or. Non,
oh
on
non, peut plus. Oh, le cliché, arrêtez.
Mais si,
oh, Laurent.
Si, vous les voyez toutes ces pièces, un amant dans une armoire, dans des décors en carton, pas de couleur, oasis, fruit de la passion. On n'en peut plus. Mais oui, il y a toujours trois mots dans le titre, c'est facile de les reconnaître et tout. Il y a toujours de la bouffe dedans. Amour, merguez et cocotier. Ou ma femme, mon barbecue et moi. Ou couscous et saucisson, une comédie romantique. Romantique sur nos différences. Non, oh, franchement, on n'en peut plus. Au moins, ça fera du tri. Ce sera pas plus mal.
Nicolas Canteloup, bravo et à demain. Julie, bien sûr, on salue Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas. La revue de presse, que c'est à retrouver et réécouter sur Europe 1.fr. FR. Il est là, Philippe Vandel. Culture Média, c'est la matinée qui continue. Bonjour Philippe.
Évidemment, bonjour Mathieu. Notre info média du jour, c'est un portrait, celui de Boris Johnson. C'est dans le documentaire de France 5. Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, qui est vraiment celui qui a provoqué ce divorce historique. Vous découvrirez qu'il est pro-européen. On en parle avec le réalisateur du doc, c'est Walid Berissou, et son co-auteur, Florentin Collomb. Au sommaire également, Pascal Perry, journaliste, qui présente Periscope, l'émission d'actu économique sur LCI. Ferrari, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de buzz et ça marche. Comment fait-il pour se démarquer des autres chaînes? Il nous le dira. Et puis enfin, le comédien et cinéaste Maurice Barthélémy, mais pas pour un nouveau livre, mais pour son livre témoignage complètement hallucinant. Ça s'appelle « Fort comme un hypersensible ». Je le connais depuis des années, j'ai découvert des choses, je n'en revenais pas.
Maurice Barthélémy des Robins.
Des Robins.
Ah oui,
des
dans
Robins.
Un exercice où on ne l'attend pas forcément.
Il raconte des choses sur lui. Il a découvert en 2015 qu'il était hypersensible et ce qu'il raconte sur lui, c'est dingue, dingue, dingue. C'est au niveau de la psychanalyse.
Et c'est dans Culture Média ce matin sur Europe 1, la matinée qui continue avec Philippe Vandel et toute son équipe. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.